Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Salut.
Et je suis aussi avec Exerve.
Hello.
Ça y est messieurs, c'est l'ultime épisode de Fin du Game de 2020. On y est arrivé, on est toujours là, malgré les intempéries, malgré tout ce que cette année a essayé de faire pour nous faire taire.
Je pense que les intempéries c'est assez bas dans la tier list.
De tout ce qui s'est passé cette année. Mais voilà, nous sommes toujours là. Et c'est évidemment grâce aux personnes qui nous soutiennent sur Patreon. C'est vraiment grâce à vous qu'on a pu maintenir le cap toute cette année, garder cette régularité, être là deux fois par mois et pouvoir se projeter tout au long de l'année et même pouvoir se projeter en 2021. On a pris là une petite réunion pour commencer à augmenter un peu la liste, histoire d'y voir un peu plus loin sur tout ce qu'on va faire.
C'est exceptionnel, hein, évidemment. Il y avait tous les actionnaires.
Oui, bien sûr.
Qui était venu. Voilà, vous connaissez l'équipe. Hein,
tous les départements sont réunis.
Ouais. Jean-Emmanuel.
C'est un moment assez Cassandra, solennel pour l'entreprise Fin du Game. Le choix des épisodes, c'est vrai que c'est toujours un moment assez...
Il y a les bonus
assez...
de fin d'année qui sont donnés
qui tombent.
Le 13, 14, 15, 18e mois, évidemment.
Le Metacritic est très bon, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde a son bonus, tout va bien. Non, voilà. Merci beaucoup pour nous avoir soutenus sur Patreon. Vous pouvez évidemment continuer de nous rejoindre pour 2020. Programme incroyable. Peut-être même déjà un nouveau palier.
Et oui.
Et ça, on va en parler. Et on va en parler quand ? Dans une émission spéciale, un épisode bonus qui sortira dans quelques temps après cet épisode. On l'aura enregistré avant la sortie de celui-ci. C'était en live. Désolé, vous l'avez peut-être loupé. Mais voilà, il sortira là sur les mêmes flux, les mêmes canaux habituels. Vous aurez cette émission. Un épisode bonus dans lequel on va revenir un petit peu à la fois sur l'émission, répondre aux questions qui reviennent souvent quand même. Sur le Discord, sur Twitter, et puis peut-être faire un petit peu le bilan de cette année 2020, et pourquoi pas voir les jeux dont on parlera l'année prochaine. Un beau programme, mais aujourd'hui c'est Skyrim, et on remercie aussi au passage Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Et là on peut le faire trop bien parce que nous sommes en présentiel, et oui, on est tous les trois autour d'une même table pour terminer cette année.
À préciser, moi parfois au montage, hein, je coupe un peu, enfin tu vois, je réduis le temps de réaction,
mais ne dis pas aux gens la maestria qu'il y a derrière.
Je suis désolé, mais il fallait que ça sorte, voilà. Il fallait le dire.
Et oui, il y a du travail derrière cette émission, même là où vous ne pensez pas qu'il y en a, il y en a dans les
des
détails.
Fois,
Maxime,
journées répète, tu vois, il me dit des trucs et moi je suis là, mais pas que. La longueur de journée.
C'est comme les mecs du cirque, tu vois, on a des entraînements tous les jours, hein, c'est de l'e-sport.
S'il le fait pas bien en direct, moi j'ai tout un dossier de mais pas que de Benoît et je les cale comme ça sur la piste.
Ce n'est pas vrai.
C'est un épisode procédural.
Et franchement, on sera peut-être capable de le faire un jour, tu vois.
Tu sais... Alors, pour l'anecdote, on en parlera plus tard.
Voilà. On met des briques comme ça.
En fait, Benoît est mort il y a 6 mois.
Oh là là, c'est vraiment pas sérieux ce dernier épisode. Donc Skyrim, donc oui, je voulais remercier Sœur parce que il nous a envoyé le bouquin sur Skyrim, Les Parchemins de Tabriel. C'est comme ça qu'il faut le prononcer, je suis désolé, je suis obligé de le faire en ASMR. C'est Maxime qui l'a lu, qui a pu revenir un petit peu sur l'univers, surtout je crois que c'est vraiment la partie dans laquelle
non.
Tu t'es le plus pendu.
Non, alors, on précise déjà, si vous voulez vraiment tout savoir sur l'univers, les forces dirigeantes de tous ces pays, de toutes les contrées, de
voilà.
De ciel et tout. Non, c'est pas ce podcast-là. Tout le lore et compagnie, c'est pas
du coup,
ici.
Vous avez
exactement.
Justement, voilà, pour répondre à toutes ces questions.
On reviendra pas forcément sur tout cet aspect-là du jeu parce que il est très vaste et je crois qu'on n'a pas forcément envie de mettre le doigt là-dedans pour que l'émission se déroule correctement. Donc voilà, le livre de Sœur. Et puis on les remercie évidemment pour toute cette année aussi de soutien. Beaucoup de bouquins qui sont sortis cette année d'ailleurs. Voilà, on peut le dire. Nous, on a reçu un petit colis, voilà, un petit cadeau. Voilà, Mehdi, il nous a gâté, il nous a envoyé plein de trucs. De jeux aussi, peut-être, dont on parlera évidemment dans l'émission, parce que on lit toujours le plaisir au travail, on essaie, voilà, on est comme ça, à Fin du Game, voilà. Voilà. Bon, allez, on va vraiment démarrer cette émission après une petite musique de Skyrim, musique iconique du jeu. Est-ce qu'on a fait le choix ?
Le choix était assez vite fait, hein, parce qu'en plus, le thème c'est toujours le même depuis pas mal d'années. On en profite pour préciser, ça c'est la petite partie malheureusement un peu moins rigolote, que le compositeur Jérémy Soule ne travaillera probablement plus jamais dans le jeu vidéo, puisqu'il a été accusé de harcèlement sexuel et de viol à plusieurs reprises l'année dernière. Ça avait fait un gros choc, étant donné que c'est lui le compositeur emblématique, on choisit évidemment de faire écouter la musique du jeu, puisqu'elle reste celle-ci. Mais voilà, on n'oublie pas cette histoire
de
simplement
problème,
vous donner donner un peu de contexte, comme on dit dans les milieux autorisés. Pardon.
Tout a été fait dans cette intro, je crois vraiment qu'on peut démarrer ce nouvel épisode juste après ça. Elder Scrolls V Skyrim, ça sort le 11-11-11, le 11 novembre 2011. Ils avaient choisi cette date hein, comme ça, ça, pour marquer les esprits. Hein. En plus, on peut pas le faire souvent, donc GG à eux. C'était sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 et Windows à ce moment-là, puisque depuis... Je vais pas vous dérouler toute la liste des portages de Skyrim, puisque bon, on a l'habitude même de faire la blague ici.
Bah, hein, évidemment, on peut y jouer sur son frigo, sur sa cafetière, évidemment, sur votre évier dans la salle de bain, c'est possible, c'est des versions. Non mais même eux, ils s'en moquent.
C'est quand même un peu cher. Hein,
ah, bah, c'est un smart évier. Non mais même eux avaient fait la blague, parce qu'ils avaient présenté un faux Skyrim version Alexa où tu pouvais jouer dessus, parce que bah, vu qu'ils avaient... Voilà, ils ont fait tellement de variations possibles de Skyrim et imaginables.
Oui, sur Switch, et puis il vient juste d'arriver là sur le Game Pass, évidemment, au moment où on enregistre, puisque vous connaissez de toute façon l'influence de cette émission sur l'ensemble de l'industrie. Ça,
sur
je
la
n'ai
réalité,
pas besoin.
En fait.
Sur, bah, oui, sur, voilà, on façonne l'image de la réalité.
La, hein, la pieuvre, toujours, ça continue.
La pieuvre. Alors, Skyrim, je l'ai précisé avec ce magnifique accent que c'est le 5e épisode des Elder Scrolls, une série qui est associée à Bethesda, et là, je fais une espèce de petite passe à Benoît qui va nous, bah, nous dérouler un petit peu l'histoire de ce studio.
Eh bien, effectivement, Hugo, c'est un studio qui date de 1986 dans le Maryland aux États-Unis. C'est un studio alors qui a en fait une histoire assez anecdotique avant justement de commencer avec ces fameux Elder Scrolls. Alors, il y a un premier épisode Arena, on n'en parlera pas trop. Daggerfall, qui est un jeu assez improbable, qui mériterait peut-être un jour, tu vois. Peut-être
là, des petites choses. Les paliers Patreon, là, ah, oui, ils sont très loin.
Non, en vrai, c'est en 2002 qu'on commence vraiment à entendre parler de Bethesda avec The Elder Scrolls 3. Donc, c'est Morrowind qui sort sur la Xbox, la toute première version, qui sort sur PC, qui a vraiment marqué le, on va dire, l'envolée de Bethesda, la série de coup des Elder Scrolls qui commencent à être associés avec eux. Par la suite, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait de beau? Ils ont fait le 4, hein, voilà. Oblivion, pareil, ça sort aussi sur console. Donc c'est vrai qu'ils ont
sur
toujours
console
eu...
HD, ouais, d'ailleurs,
sur console, c'était sur 360
et PS3. Ouais.
Exactement, il y a eu le portage après. Donc ils ont toujours eu comme ça cette approche du on n'est pas que sur PC, ouais. Contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer. Il y a eu Fallout 3 qui est arrivé en 2008. Entre-temps, il s'est passé des tonnes de choses. Ils se sont dit, bah tiens, on va commencer, on gagne de l'argent, on va racheter des studios. Il y a eu ZeniMax qui a été créé pour, on va dire, chapeauter un peu tout ça. Ils ont racheté ID Software en 2009, donc les gens qui faisaient Doom maintenant,
ouais,
Rage, etc. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans les trucs? Et puis, bon, ils ont fait évidemment Skyrim, qui est sorti en 2011. Alors, pour les petites anecdotes, parce que ça m'a quand même fait halluciner, Todd Howard, qui est donc le porte-parole, que vous voyez à chaque fois qu'il y a une annonce.
De Bethesda, des studios Bethesda qu'on voit à chaque fois, les annonces.
Qui avait annoncé Skyrim au milieu de mecs en capuche.
Oui, et qui faisait les choristes un petit peu.
Ah, oui,
c'était
oui, incroyable.
Ça date, hein, ouais, tout ça. Et d'ailleurs, pour l'annonce, c'est ça où tu te dis c'était fort, c'est qu'un an avant, ils avaient annoncé la date du 11-11-11 en se disant, bah tiens, c'est cool, on veut cette date-là et on va s'y tenir, on va essayer de sortir le jeu. Mais bref, tout ça pour dire que Todd Howard est rentré dans la société en 1994. Ça fera bientôt 30 ans qu'il est en fait dans la boîte. Il a commencé comme producteur et puis petit à petit, il a pris de la place dans la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est vraiment la personne incontournable.
Creative director.
Ouais, vraiment, voilà, c'est ça. Studio, hein, c'est lui qui chapeaute un peu comme ça toutes ces séries-là. Et bah c'est ouf parce qu'on est souvent en train de dire que le jeu vidéo, il y a un turnover assez malade. Et là, Bethesda, on aura l'occasion de le redire au long de l'épisode. C'est au contraire un studio qui essaye de soigner ses seniors et de les garder très longtemps parce que justement, ils comptent beaucoup sur leur montée en puissance, leur expérience pour pouvoir continuer de faire des jeux de plus en plus réussis. Puisque bon, bah Skyrim, hein, je pense que là, voilà, si vous écoutez, normalement, vous en avez déjà entendu parler. Ça a été un succès absolument incroyable. 94 sur Metacritic. Donc, on est dans les must-play faciles.
Est-ce qu'on peut revenir peut-être un petit peu sur ce qui faisait la spécificité des Elder Scrolls pour comprendre un petit peu c'est quoi les bails, c'est quoi cette histoire, qu'est-ce qui les rendait spécifiques par rapport à tous les autres RPG occidentaux de l'époque?
Alors, par rapport à tous, je sais pas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais déjà, il y avait ce côté où ils n'étaient pas forcément que orientés PC, tu vois. C'est pas du CRPG vraiment old school avec du tour par tour, tu vois, des trucs assez... opaque, c'est quand même une série qui, au fur et à mesure des épisodes, ils ont toujours essayé de se rendre un peu plus mainstream, de s'ouvrir un peu plus à un plus large public, sans que ça soit tout à fait négatif. Et c'est vrai que à partir de Morrowind, ils sont arrivés avec cette idée d'un monde ouvert. Alors, ça a l'air de rien, mais quand ça sort, c'est en 2002, ben, en fait, il n'y a que GTA qui propose un monde ouvert.
Ouais, et encore GTA, on est assez... Enfin, c'est pas le GTA qu'on connaît aujourd'hui.
Non, on est
vois,
à des années-lumière, c'est GTA 3.
GTA 3, c'est quand...
Ouais.
Bah,
ça doit être 99 ou 2000, tu vois, c'est dans ces périodes-là.
Ouais,
tu mets un doute là, bon, on vérifiera
allez,
le...
Allez, je fact-check rapidement
pendant que je continue. Donc, il y avait cette histoire d'open world qui déjà, en soi, changeait vraiment quelque chose, puisque tu étais projeté comme ça dans un monde dans lequel tu pouvais te balader très librement. Ça se rapproche beaucoup dans la structure d'un Zelda Breath of the Wild, si jamais vous ne voyez pas. C'est-à-dire que, littéralement, tu finis le prologue, tu peux aller voir le boss de fin, lui faire coucou sur la tête, et tu finis le jeu en 5 minutes. C'est possible, ça fait vraiment partie de ces jeux qui sont complètement ouverts. Au niveau des spécificités plus mécaniques, il y a le fait que tous les Elder Scrolls, en fait, il y a cette idée de on gagne pas de l'expérience quand on tue des monstres, on gagne de l'expérience en faisant des actions.
Ouais.
Si tu sautes et que tu te casses les genoux, tu vas gagner beaucoup d'agilité.
Ce qui est logique.
Ce qui
n'est
pas très logique.
Moi, par exemple, je me suis croûté en vélo là très récemment et je me suis pété le coude. Et ben, fun fact, j'étais pas plus fort avec
mon
bras.
Mais ton os, tu vois, quand
voilà,
il va se reconstruire,
il sera plus fort.
Hein, plus voilà. Fort. C'est ça,
exactement. Donc, encore 6 ou 700 fractures et tu seras un super saiyan.
Très bien, ça marche.
Mais là, du coup, il y avait cette idée-là, donc ça a permis vraiment de changer un petit peu d'approche par rapport au RPG classique qui, en général, la plupart des RPG connus, vraiment les Baldur's Gate, etc., ça s'adapte plutôt des systèmes de Donjons et Dragons. Ils ont leur système à eux, du coup, avec les Elder Scrolls, et ça fait partie de ces choses qui les ont rendus spécifiques. Et ça se joue en 3D, ça se joue à la première personne, enfin vraiment... Tu joues à un Elder Scrolls, tu sais que tu joues à ce jeu-là et pas à autre chose. Et même encore aujourd'hui, finalement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui reprennent comme ça cette structure-là.
Ouais, c'est une formule qui était déjà bien établie. Mais avec Skyrim, ils ont quand même essayé un peu de simplifier les choses parce qu'ils visaient un public vraiment super large avec cet épisode.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ils ont voulu. Donc, déjà, ils savaient qu'ils voulaient sortir vraiment en même temps sur les consoles HD. À cette époque-là, on le rappelle, hein, on est dans les années 2010. Le PC, c'est toujours un peu le creux de la vague.
Ouais.
Alors, ça remonte doucement avec Steam qui arrive. Mais dans les faits, les gens étaient plutôt sur console, donc ils se sont dit, il faut qu'on adapte un petit peu à ça. le fait qu'il y ait des contrôles avec des manettes et pas des claviers souris, c'est pour ça qu'ils ont fait une interface complètement pourrie sur PC ou sur console. Mais bon, bref, ça, ils avaient dû oublier d'y réfléchir. En tout cas, ils ont fait un jeu qui se veut plus accessible et ça leur a super bien réussi parce que vraiment, quand le jeu il sort, c'est un carton phénoménal. On va même en parler hein, dans l'épisode. On a toute une partie là, tu vois.
En termes de vente, je crois que c'était quoi, c'était
7 millions en une semaine.
Voilà, 7 millions en une semaine.
Même aujourd'hui, ça.
Voilà, même aujourd'hui.
C'est incroyable.
Tu vois, bon, ouais. Là, il y a Cyberpunk qui vient de sortir. C'était 8 millions de précommandes, alors eux c'était à moins une semaine qu'ils ont réussi à le faire, mais voilà, 7 millions en une semaine. Moi honnêtement, quand j'ai vu le chiffre là, j'ai un peu halluciné, parce que c'est vrai que bon, on va en parler, c'était un phénomène dès la sortie, mais c'est énorme. Et surtout, en fait, par rapport à ce qu'étaient les Elder Scrolls, enfin même
Oblivion, c'était pas autant hein. Voilà, tu vois, Oblivion, il arrivait à faire
5 millions,
ouais,
crois,
il arrivait à faire quelques millions après 6 ou 7 ans, tu vois. Je crois qu'il était à 3 millions quand Skyrim est sorti.
D'accord.
Ce qui était déjà énorme,
parce que
Oblivion c'était déjà un succès incroyable. Et là Skyrim, bah, c'est en fait vraiment, ils ont pété le plafond de verre instantanément. Et et justement, comme tu l'as dit, ils ont réussi en fait à toucher ce public là beaucoup plus large, qui était peut-être pas un public de niche très core gamer, et ça leur a réussi. Parce que bah évidemment, le jeu c'est devenu un phénomène qu'on connaît, et même encore bah 10 ans aujourd'hui, tu vois, enfin ça fait presque 10 ans qu'il est sorti, et bah il continue en fait de capitaliser sur Skyrim, et pour l'instant on n'a pas encore vu la suite, quoi.
Ouais, parce que puisqu'on est un petit peu sur les ventes, en un an et demi c'est 20 millions, donc ça aussi ça prouve que c'est quand même
c'est oufissime, quoi. C'est vraiment,
c'est quand même vendu aussi sur le long terme, pas que en une semaine, quoi.
Aujourd'hui on a un point, on sait à combien
je crois qu'on
tout le monde là, qui n'a pas Skyrim, c'est ça leur
pas gigantesque, mais c'était quoi, peut-être 30 millions,
ouais, un peu plus de 30. Après, il est sorti sur tellement de plateformes, c'est compliqué, parce que c'est, tu vois, il est vraiment dispo sur toutes les plateformes, les consoles qui sont sorties.
Maintenant, il est sur Game Pass. Voilà,
ouais, voilà. Du coup,
c'est un flux Skyrim maintenant.
Mais ça continue, parce que par exemple, tu vois, pour les petites stats, je me suis amusé à regarder donc avec Steam Charts. Donc, le pic de joueurs de Skyrim, c'est pas 2011, c'est en 2015. Donc, 4 ans après, il y avait plus de 100 000 personnes qui y jouaient. Et là, avant-hier, donc quand on était en train de préparer l'émission, il y avait encore 10 000 personnes par jour en moyenne qui jouaient à Skyrim. On est en 2020, ça fait 9 ans qu'il est sorti. Et c'est Skyrim, c'est pas Skyrim spécial édition, parce que c'est deux versions différentes.
Ouais, c'est vrai.
Donc c'est, si tu cumules les deux, je crois qu'on est à presque 20 000 personnes par jour qui y jouent régulièrement, en moyenne.
Parce que c'est ouf. Je me disais 2015, ça doit correspondre, j'imagine, à la sortie peut-être de la spécial édition, où il y a encore une autre édition.
Ouais,
enfin,
je sais plus quelle c'était, mais
il y a eu une édition Legendary ou un truc comme ça. Tous les DLC qui sont sortis par la suite sur les deux années, je crois qu'on suivit le jeu.
Il y a eu les différentes.
Et puis après.
T'as eu le remaster là qui est sorti
puis
plus récemment.
Tous les ans, ils sortaient sur un truc.
De toute façon, c'est ça, Skyrim, ça sortait tout le temps.
Et ça continuera à sortir tous les ans, j'imagine.
Bah, il y aura une version
sur
PS5 et
Series
X, tu vois.
Non, ça va pas être drôle.
Ah là là. Mais bon, voilà, c'est le fait est que ça a vraiment cartonné, le jeu a marché instantanément et il a continué de cartonner, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de création, pour revenir un petit peu plus sur Bethesda, à cette époque-là, ils sont pas encore le gros studio qu'ils sont aujourd'hui, qui d'ailleurs s'est fait racheter par Microsoft assez récemment. Ils étaient une centaine de personnes à bosser sur Skyrim, c'est très peu en fait, par rapport
beaucoup,
au scope du jeu, hein, parce que l'objectif de Skyrim, c'est quand même de vous proposer un continent, on va dire une région complète de ce continent de Vardenfell à visiter, avec ses villes, avec ses religions, ses légendes, ses quêtes, etc. Donc cette idée de proposer un monde très vivant, très organique,
c'est intéressant,
c'est
parce
ultra
que c'est
ambitieux.
Ouais, c'est ultra ambitieux et c'est vraiment une démarche presque commerciale en fait. Pour eux, c'est un argument de vente, c'est ce qu'il expliquait le lead level designer là, Joel Burgess. That's the one. Et il expliquait vraiment que le scope, pour rappeler, c'est ce qu'on appelle, c'est l'envergure du projet, c'est-à-dire vraiment proposer un gros jeu, ça fait partie de leur ADN chez Bethesda. Et du coup, ça représente évidemment un défi quand on n'est qu'une centaine de personnes. Sur Skyrim, il n'y a qu'une dizaine de level designers, donc c'est assez...
Quand tu te dis le nombre de donjons, de villes, de lieux, de temples, de cavernes, de grottes à visiter...
Et du coup, ça leur demande des trésors d'ingéniosité, pour pouvoir produire tout ce contenu sur un temps assez limité, parce que Skyrim, il ne s'est pas fait non plus en 7 ans. Hein. C'est un jeu...
C'est 3 ou 4 ans.
C'est une prod qui
est Fallout 3, c'est 2008.
C'est ça.
Donc, ils avaient évidemment une partie de l'équipe qui était déjà, mais voilà, ça a duré 4-5 ans en tout, quoi.
Et du coup, c'est vraiment plein de les level designers qui se créent des kits qui vont pouvoir répéter, recoller, réorganiser et ensuite rajouter des petites textures juste histoire de donner des identités
et
différentes.
Plein de tricks, tu vois. Il expliquait dans la conférence qu'une des tables qu'on croise le plus, en fait, c'est une étagère. C'est la même, mais ils ont juste rentré dans le sol et on a l'impression, du coup, que c'est des pieds qui touchent pas le sol.
Et quand on parlera un petit peu du côté seniors et tout, il y a aussi une expérience qu'ils ont accumulée, des méthodes de travail, d'optimisation, de planning, etc., qu'ils ont assez bien rodé.
Oui, parce qu'ils ont vraiment cette recette qu'ils ont commencé à appliquer avec Fallout 3, et ils arrivent sur Skyrim avec vraiment beaucoup d'ambition, mais aussi cette expérience-là, pouvoir reprendre les mêmes schémas, les mêmes process de travail, et ce qui va faire que le jeu, alors on peut le rappeler aussi à la sortie, c'est vrai qu'il sort assez buggé, ce qui nous rappelle encore un certain jeu qui sort actuellement, mais bon, vrai, à la sortie Skyrim, c'est un peu la foire aux bugs de partout, mais voilà, le jeu fait
partie du lore, en fait, tu vois,
ouais, Elder Scrolls,
c'est-à-dire que ouais. Tu vois, c'est des bugs que t'avais les mêmes dans Morrowind, tu les retrouves dans Oblivion, tu les retrouves dans Skyrim, il y a des trucs comme ça, ou des soucis de script d'IA qui se mettent à faire n'importe quoi ou quoi, c'est des choses que tu t'attends à retrouver, et évidemment, alors on le redira en plus en détail, mais comme c'est à cette période que ça a vraiment explosé du côté de YouTube, de Twitch, etc., tout le monde était au courant, tout le monde a vu la flèche dans le genou, tout le monde a vu des énormes de trucs avec des dragons qui se mettent à se suicider dans la mer, ou à voler à l'envers, ou en reculant aussi, j'ai vu une vidéo avec un dragon qui se mettait à voler à l'envers, enfin bref, il y a tous ces trucs là, le fait que le jeu soit très buggé, ça a même donné d'ailleurs toute cette légende autour du fait que les jeux Bethesda sont finis par les joueurs,
ouais, tout à fait.
Puisqu'il y a tout le modding qui va prendre le relais pour compléter le contenu, ça fait partie là aussi de leur volonté, puisque depuis Morrowind, ils donnent accès aux joueurs à ce qu'ils appellent donc le Creation Kit ou Creation Set, je sais plus, j'ai un doute, ouais. Où c'est en gros, c'est leur outil à eux, hein. C'est l'outil qu'ils utilisent pour créer des quêtes, pour créer des comportements d'IA, des dialogues, des éléments, rentrer des éléments 3D, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez transformer votre Skyrim, voire créer un nouveau jeu.
Ouais.
Puisque du coup, pour Oblivion et pour Skyrim, il y a une équipe donc d'Allemands principalement qui ont fait deux jeux. Ça s'appelait Nerim, la version, leur premier jeu, et c'est Enderal, que moi je vous recommande chaudement, qui est fait intégralement avec le moteur de Skyrim. Ils ont refait des voix. Enfin, c'est un jeu complet fait à partir de Skyrim, pour vous dire la puissance de l'outil, quoi.
Et de tout, ouais, voilà, de tous les assets et que Bethesda laisse vraiment à disposition pour effectivement que les joueurs et joueuses finissent le jeu eux-mêmes. On n'a pas forcément parlé de la sortie critique, mais bon, est-ce qu'il y a besoin vraiment de s'étendre là-dessus? Le jeu récolte vraiment tout à l'année 2011 où il sort, hein, c'est vraiment Game of the Year, mais... Everywhere, je crois. Enfin, même chez Famitsu, j'ai regardé, il prend 40 sur 40. Donc Famitsu, le fameux magazine japonais qui donne 40 sur 40 qu'à Mario et Zelda et Bayonetta éventuellement. Mais voilà, Skyrim qui prend un 40-40 sur Famitsu. Et puis voilà, des notes dithyrambiques de partout. On est 94 sur Metacritic, on l'a dit. Voilà, c'est le jeu. Le jeu s'impose en fait de lui-même dans le paysage vidéoludique à ce moment-là. Et ce qui va s'imposer à vous maintenant, eh bien c'est l'histoire du jeu, puisque vous commencez à connaître la structure de l'émission. Et cette fois-ci, c'est Maxime qui va nous raconter la légende de l'enfant du dragon.
Spoiler,
je sors mes instruments de musique pour...
Imaginez-vous l'écran noir, le flou, et un petit monsieur aux cheveux longs qui fait hey, « Salut, vous êtes dans une petite caravane ». Vas-y Maxime, déroule-nous ça.
C'était le début de Skyrim.
Iconique vraiment ce réveil.
On revoit dans des mimes, souvent, le côté on se réveille, je sais pas, mais tu vois des compiles parfois où un héros il va tomber dans les pommes ou quoi, et après il se réveille justement dans Skyrim, comme le héros qui se réveille donc dans une espèce de calèche où on découvre qu'on est prisonnier. Ça c'est un petit, pas un running gag, mais une habitude des Elder Scrolls, on est toujours prisonnier en fait.
Oui, c'est vraiment le truc qu'on commence, on s'est fait prendre prisonnier, et puis du coup on va partir de, de là.
Donc on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas qui on est, on choisit notre identité, notre race comme dans... tous les Elder Scrolls, on est sur le point de se faire décapiter avec nos petits copains, ou en tout cas nos compagnons de calèche qu'on vient de rencontrer. Un dragon apparaît, tout le monde est surpris, c'est la panique, on en profite pour s'échapper. On va vers un village, ou pas, puisqu'on en reparlera, c'est un bon lit, mais on va faire comme si vous rushiez la quête principale.
Ouais,
on va vers un petit village, un petit hameau qui est pas très loin, on leur apprend qu'il y a un dragon qui a attaqué l'endroit où on était, et là ils nous disent « Ah bon, un dragon, mais il faut tout de suite aller voir le Jarl qui est dans un patelin, je ne sais plus comment il s'appelle, on revient. »
Je confonds toujours Blanchefleur et Blancherive, parce qu'il y en a un dans The Witcher, je crois que c'est Blancherive, là, ça doit être Whiterun en anglais ou un truc comme ça.
Ouais, c'est
on
ça.
Va dire, c'est ça. On va dire que c'est ça. Donc on
vous l'abrez dans les commentaires.
Les gens vont nous tomber dessus pour ça, donc on vous salue.
Donc on va voir le Jarl de Tatooine.
Ah, ça y est, ça me rend quelque...
je vais skipper quelques péripéties, évidemment. Il nous envoie enquêter un petit peu.
Première péripétie importante, quand même, c'est une rencontre avec un autre dragon qu'on va tuer et dont on va absorber l'âme. Et là, les mecs nous disent, mais quoi, tu peux absorber l'âme du dragon? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tu es sûrement un dragonborn. Tu es peut-être
un enfant de dragon.
Il faut absolument que tu ailles voir les grises barbes. Je l'avais en anglais, mais je savais pas comment il l'avait traduit. Et pour qu'ils t'apprennent à maîtriser ton pouvoir en chantant, en rappant, car c'est ça dans Skyrim, c'est en faisant du rap qu'on utilise des
fois. Tu deviens backer de dragon.
Exactement, c'est des adlibs derrière comme ça.
Et du coup, ouais, t'apprends des mots, en fait, tu
ça
maîtrises...
Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, on est désolé si on est un peu...
Du coup, mort de...
Il est en train de pleurer.
J'en peux plus. Ah, ça m'a tué, tu sais, j'en y avais pas pensé, faut le dire, ça aux gens que c'est vraiment en plein... C'est ça, la spontanéité de ce podcast, putain.
Je suis en train d'imaginer tous les types qui font...
Et... Pousse, yeah.
Bah, et du coup, on va chez les producteurs Grisbarbe.
Voilà, c'est ça, le label
MC, du coin. MC Draco. On va apprendre donc des mots de dragon quoi, qui pourront faire des formules, notamment le fameux Fusroda, qui permet de faire une vague de force, etc. Donc ça, ils nous disent, ok, c'est bien, gamin, tu maîtrises, on valide ton semestre, mais pour avoir ton diplôme de dragon LV4, il faut péter la gueule de Alduin, qui est donc le grand méchant, hein, qui est un dragon.
Le fameux dragon noir, en fait, qui est du début du jeu. Ouais,
qui avait été vaincu il y a bien longtemps par des héros de bord de ciel, mais qui revient.
Selon la prophétie, revient pour détruire le monde, hein, voilà, tout simplement.
Mais il y avait une contre-prophétie,
qui était celle du rappeur.
Et du coup, on le combat une première fois, il s'enfuit, il va à, non pas Valhalla, mais Sovngarde, en français, qui est complètement Valhalla. Hein. C'est là où il y a les héros de bord de ciel, les valeureux combattants, etc., qui sont là. On retrouve du coup ceux qui avaient combattu, qui avaient renvoyé Alduin dans les enfers.
Erré dans le temps, hein, c'est ça, je crois qu'ils l'ont coincé comme ça dans les méandres du temps pour pas qu'il revienne, mais malheureusement,
c'est ça n'a pas marché. Et là, on a besoin de leur aide pour le combattre et... on gagne, les gentils gagnent. On combat Alduin, on le tue à Sovngarde, et voilà, bord de ciel est sauvé.
Mais sachant que peut-être qu'il reviendra quand même, il y a une petite ouverture. Oh là là. Ça, c'est la... En gros, ça, c'est vraiment la quête principale de Skyrim, qui prend assez peu de temps finalement à se faire. Hein. Si on la fait vraiment en ligne droite, c'est très rapide.
C'est une 10-12 heures. Parce qu'on traîne, parce qu'il faut marcher, quoi. Tu vois, le cheval s'est perdu en route, il faut y aller, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas forcément très très long. C'est pas non plus le... Mais c'est pas grave. Vraiment, c'est pas le cœur du jeu. Ouais. Le fait qu'on soit le Dragonborn, tu peux très bien passer ta vie dans Skyrim sans jamais apprendre plus que Fusroda comme mot. C'est pas grave. Alors qu'il y en a plein. Hein. En réalité, il y a tout un tas de mots. Puisqu'on va pouvoir s'amuser, aller dans des temples, chercher certaines syllabes qui vont nous permettre de débloquer différents pouvoirs. Donc là, le jeu, évidemment, est très ouvert. Et c'est de toute façon ça, en fait, la particularité de Skyrim et des Elder Scrolls, en général. C'est pas tant l'histoire qu'on a voulu t'imposer que celle que tu écris toi-même.
Oh là 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 là.
Celle-là, je l'avais écrite quand même. Hein, cette transition.
C'est écrit.
C'est écrit quand même.
Incroyable, incroyable.
Non, mais des fois, j'ai des trucs, je suis plutôt content, donc je les note.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on dit après la transition?
Eh bien, on va pouvoir commencer à parler de ce fameux open world, de cette fameuse liberté, de cette fameuse aventure, en fait, que nous promet comme ça les Elder Scrolls, et Skyrim encore plus, parce qu'évidemment, on se souvient de ce fameux trailer avec la musique qui se lance, évidemment. C'est la musique là, du trailer de février. T'as été vu mais parce que moi, enfin, tu vois, je me vois encore comme un gosse en train de voir ça, quoi, parce que tu te dis, mais c'est incroyable.
Et pour recontextualiser un peu l'open world, l'an 2011, tu vois, un open world, c'est encore synonyme de quelques fantasmes de liberté, puisqu'on a déjà quand même Red Dead Redemption, qui est sorti en 2010, on a cité les GTA, les Elder Scrolls eux-mêmes, hein, mais on va revenir là-dessus, Assassin's Creed, ils ont déjà sorti leur trilogie en Italie, je crois que le 3 sort en 2011.
Ils sont en plein dans les Brotherhood, Révélation et
tout ça. Le 2 sort en 2009, donc on est en plein dedans.
Le 3, il est sorti après, je crois.
Ouais,
mais ils ont sorti, comme vous l'avez dit, Brotherhood, Révélation, peut-être, et
peut-être
déjà
sorti. Parce qu'il y en avait un après, c'était celui de 2011, je pense. Ouais.
C'est
sortir,
ça. Ouais, donc l'open world est déjà là, même l'open world entre guillemets moderne tel qu'on l'envisage aujourd'hui, mais c'est pas encore la maxi-folie entre 2012 et 15, on va dire.
Il n'y a pas du tout cette saturation en fait qu'on connaît encore aujourd'hui. Et surtout, voilà, il y a encore des grandes lignées, c'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a les GTA-like en gros qui descendent de GTA avec les trucs genre Saint-Tro, des trucs comme ça qui sortent aussi. Il y a les Elder Scrolls, là c'est vraiment le open world façon RPG. En fait, j'ai l'impression qu'à cette époque, on met pas tout dans le même panier. Alors peut-être qu'on avait raison de le faire, peut-être qu'on devrait encore le faire aujourd'hui, mais c'est vrai que ça s'était pas formalisé autant que ça l'était aujourd'hui. Maintenant, voilà, on arrive à tous les mettre parce que il y a tellement plein d'éléments que les GTA Like ont donné aux RPG et inversement, que finalement on a une espèce de grande sauce aujourd'hui qui est commune à tous les jeux, mais c'était pas le cas en fait à cette époque.
Puis on a toujours des gros gaps graphiques, hein. Alors Oblivion, je connais pas trop, bon c'était déjà de la HD quand même,
mais c'est début HD.
Quand Skyrim arrive, bon bah voilà, il s'est écoulé quand même. Oblivion c'est 2006, donc il s'est écoulé 5 ans depuis. On avait quand même eu Fallout 3 en 2008, ouais. Mais voilà, on continue toujours de faire un petit peu ces sauts, et ça continue de faire rêver. Et comme on le disait, même s'ils n'ont pas vraiment changé de formule d'open world, bah en 2011, quand Skyrim arrive, et bien ça donne envie.
Il y a quand même une formule qui change, j'ai l'impression, de ce que j'ai lu, hein, parce que je suis pas un expert des Elder Scrolls, mais que les mondes étaient quand même beaucoup plus plats avant,
ouais,
et que Skyrim vraiment va donner du relief avec ces grandes montagnes, ces vallons comme ça qui sont devant nous, et c'est vrai que ça va changer littéralement l'approche qu'on peut avoir à l'exploration.
C'est vraiment sa grande force, c'est que dès le début du jeu, on va comprendre qu'on va être vraiment dans des trucs vallonnés, puisqu'en plus la prison où on est vraiment relativement haute dans une montagne, en fait on va descendre dans une vallée, ensuite on va nous demander tout de suite, si on fait les premières quêtes du jeu, de remonter dans un temple qui est en plein milieu de la neige, la montagne, etc. Et clairement le bord de ciel, donc Skyrim, c'est vraiment un pays qui est ultra vallonné, il y a des montagnes partout, il y a de la mer, enfin il y a vraiment tout un tas de décors,
des pics, des grottes,
et on voit très loin, parce que justement ils avaient réussi, donc avec cette histoire de HD, alors même s'ils cassaient évidemment le niveau de détail, hein, au loin tu voyais juste une pauvre texture, en fait ça nous donnait une impression de se dire je vais pouvoir aller là-bas un jour, et ça fait partie des promesses de ces open world de l'époque qui nous disaient, si vous voyez un truc vous pouvez y aller, ouais. Vous savez, c'est cette fameuse phrase très marketing où on nous le dit encore aujourd'hui, c'est pas forcément toujours le cas, mais là c'était vraiment leur objectif, c'était de se dire si vous voyez un château au fin fond d'une montagne vous pouvez y aller, ça, c'est vous qui choisissez.
Un truc intéressant qu'on apprend dans le bouquin sœur d'édition donc de Franck Extanasier, c'est l'occasion de dire le nom,
Fox les gens qui écoutent l'étonnier.
Et le jeu justement joue sur des perspectives, il y a beaucoup d'illusions qui sont données puisque ce n'est pas les distances concrètes et réelles justement quand tu vois quelque chose très loin, et du coup il y a des petites astuces qui font que les choses te paraissent beaucoup plus loin, enfin voilà, il y a des petites astuces de développeur, de designer.
D'accord. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'à cette époque là et encore aujourd'hui, parce que je trouve que pour avoir joué à beaucoup d'open world ces dernières années, effectivement le modèle, on va dire l'espèce de matrice Assassin's Creed a pris le pas sur pas mal de jeux AAA avec les petites poches de quêtes annexes, etc. Skyrim c'est encore une approche un peu différente, où ils ont vraiment essayé de donner l'illusion que tu vas arriver dans un monde qui existait avant toi et qui a priori pourra continuer d'exister après toi, puisque tu l'auras sauvé de toute façon, mais je veux dire, tu vois, c'est pas des PNJ qui ont une espèce de point d'interrogation sur la tête, etc. Ouais. Alors la map, quand tu ouvres la carte de Skyrim, elle est blindée de petites icônes au bout d'un moment, ça ok, c'est un truc qu'on reconnaît, mais quand t'es dans le jeu, ils ont essayé de limiter tous les éléments qui te rappellent que t'es dans un jeu vidéo, et c'est pour ça aussi qu'on peut jouer à la première ou la troisième personne, c'est nous qui choisissons. Enfin, voilà, ils ont vraiment bossé leur système d'immersion pour nous donner l'impression qu'on est dedans.
Et c'est un jeu qui invite pas mal à l'errance, en fait, puisque déjà, les quêtes, c'est toi qui vas te les fixer, tu vas discuter avec des gens, tu vas vraiment choisir tes quêtes. Il y a aussi le système de boussole qui change un petit peu. Enfin, je trouve que ton rapport peu au jeu, il change. C'est pas, tu vas te fixer un truc... tu peux pas ping des choses, tu vas pas voir.
Si tu peux ping un petit marqueur d'objectif quand même dans ta boussole.
Autant pour moi.
Mais c'est vrai que c'est pas la minimap. C'est pas la minimap. Et c'est vrai que, bon, moi le jeu... Alors, j'avais joué un petit peu en 2013 et là j'ai rejoué un petit peu pour l'épisode, et c'est vrai qu'on n'est pas dans cette matrice là je trouve que l'interface est vraiment pas chargée, et ça laisse la place justement à l'observation de son environnement, à regarder les montagnes et se dire ok bah je vais aller là, à essayer de se repérer plus avec ça ou vraiment en ouvrant sa map plutôt que simplement je colle les yeux en haut de l'écran et je regarde la map.
Tu vois, le jeu propose tout un tas de panneaux d'indications qui font que par exemple si tu te balades avec ton cheval ou même à pied, si tu suis les routes, tu auras toujours des indications. Donc en fait, tu peux par exemple une des parties qu'on peut faire dans le modding, c'est de supprimer complètement la carte et les voyages rapides.
Ouais,
et en fait, le jeu est pensé sans le faire exprès. Enfin, si, ils l'ont évidemment fait exprès, mais je veux dire, c'est que tu peux tout à fait te passer de tous ces éléments d'interface très jeu vidéo et tu peux te repérer intégralement grâce à ce qui se passe à l'intérieur.
Je pense, tu vois, alors ça c'est amusant, je fais une petite parenthèse, mais parce que je pense que tous ces éléments d'interface, ils sont tellement formalisés pendant les années 2010 que c'est vers 2015, tu vois, que les jeux ne savaient plus s'en passer. Alors que finalement, en 2010, tu vois, même Assassin's Creed, premier du nom, voulait faire ça, tu vois. C'était la base, que tu puisses te repérer dans le truc. Et alors, GTA, c'était pas possible parce que la ville, c'était, voilà, ça, il y a toujours eu le GPS. Mais c'était pas des questions encore qu'on se posait parce que c'était pas encore là, tu vois, ce côté minimap. J'arrive pas à me débrouiller sans la minimap. C'était pas une question qu'on se posait à Skyrim. Bah, mais aujourd'hui,
qu'on se posait beaucoup, tu vois, avec The Witcher, justement.
Exactement, avec, voilà.
Bon, évidemment, vous connaissez, je pense, maintenant, là, ou si vous la connaissez pas, je vous invite à la regarder, la vidéo de Mark Brown où il explique, là, justement, le fonctionnement de The Witcher avec ses fameux petits pointillés qu'on va suivre tout le temps. Et il le compare, lui, avec Zelda Breath of the Wild, mais qui a beaucoup, finalement, de similitudes. Hein. C'est vrai que si on devait les grandes familles des open world, les GTA d'un côté, tous les héritiers d'Assassin's Creed qui sont les plus présents aujourd'hui, et Skyrim, Zelda, qui sont finalement assez proches, je trouve, dans leur idée.
Il y a aussi une approche intéressante où les jeux qu'on vient de citer, Witcher ou Assassin's Creed, sont beaucoup plus scénarisés. Ouais. On va faire confiance au jeu. Alors oui, il y a des quêtes annexes, et surtout dans The Witcher. Mais Skyrim, il y a beaucoup plus ce côté, on va récompenser ta curiosité. En fait, tu vas te balader. Il y a ce pari qui est pris par le jeu et qui est assez bien réussi, où si tu te balades pendant une heure dans n'importe quelle direction, tu vas trouver 20 quêtes différentes et il y en a au moins une ou deux ou peut-être trois qui vont t'intéresser. Ou tu vas tomber sur des lieux qui n'étaient pas une quête, mais le fait de te balader, ça va t'intriguer. Tu vas les voir, ça va t'intriguer, tu vas y aller. Il y aura une petite histoire qui te sera racontée, petite histoire de narration, combinée de narration environnementale, etc. Et c'est juste ça, tu te balades en fait et tu vas trouver ta petite histoire, alors que dans Assassin's Creed, c'est pas vraiment la philosophie de
licence. Oui, ce qu'on saluait dans Breath of the Wild, qui était on fait le plateau du prélude et après voilà, t'as un point, tu peux aller là-bas, mais sinon va faire ta life. Vraiment dans Skyrim, quand le mec, tu sors de ton bourbier avec le dragon, il te dit va au village là et après débrouille-toi, et il se passe vraiment quasiment littéralement la même chose.
Ouais.
Et ce qui est intéressant, c'est que même moi, ça m'a choqué, parce que je l'avais pas réalisé à l'époque, mais Breath of the Wild reprend vraiment cette structure, c'est-à-dire un monde avec plein de reliefs, avec des sanctuaires qui t'emmènent un peu sous terre. Et en fait, c'est exactement pareil dans Skyrim, puisque les donjons sont dans des grottes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu entre guillemets séparées du monde, même si bien sûr elles se rejoignent, tu peux recouper, tu peux prendre des raccourcis, des trucs comme ça. Mais il y a cette même façon d'enterrer un peu les donjons dans ce
ça te permet d'avoir plusieurs couches de d'émerveillement quand tu découvres le jeu, parce que je suis notoirement connu pour pas aimer le jeu, mais j'y ai quand même passé un peu plus de 150 heures parce que j'adore me balader là-dedans. Parce que justement, sur
moi, j'aime pas le jeu, tu sais, c'est les reviews.
Oui,
Steam,
oui, c'est ce que j'allais dire.
Bad game, tu sais, 880 heures.
En fait, j'ai un rapport particulier parce que, tu sais, comme c'est sorti en 2011, il y a un autre jeu qui est sorti en 2011, vous savez, où on fait des roulades, les feux de camp, tout ça. Et donc, moi, j'étais à fond dans mon délire de le gameplay avant tout, et forcément, c'est pas forcément sa grande force à Skyrim là-dessus, les combats, etc. C'est pas forcément là où il est le plus réussi. Mais par contre, en termes de on te jette dans un monde et démerde-toi, ils sont vraiment intouchables là-dessus. Et en plus, donc, ils te font la surprise de dire t'avais déjà vu les montagnes et des trucs, et là on te dit qu'en fait il y a des ruines Dwemer, donc les nains,
qui ont
disparu, qui se rejoignent, et tu peux aller d'une ville à une autre, et il y a des galeries gigantesques. Enfin, on en parlait avec Max, tu vois, quand tu découvres qu'il y a des galeries qui se rejoignent d'une montagne à une autre, quoi que ce soit, c'est incroyable, quoi.
Mais t'as une grosse partie du jeu, c'est une espèce de grande caverne souterraine gigantesque qui peut commencer avec une quête toute bête où tu dois juste cueillir des champignons qui brillent, et tu découvres cette immense zone souterraine qui est éclairée du coup par les fameux champignons partout, et qui effectivement relie tous ces souterrains et tout, et ça c'est un truc complètement caché. Et un autre truc, parce qu'on parlait un peu du monde organique qui existe avant nous et tout, il y a aussi un autre aspect important, c'est que le monde va aussi réagir à notre présence, et ils ont ce concept, alors je pense pas qu'il est inventé, mais le terme, ils ont un terme qui est pas mal, qui est « Radiant Stories », des histoires irradiantes.
C'est le nom de leur système, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Et l'idée, c'est que l'environnement, en tout cas surtout les PNJ, vont réagir à certaines de nos actions ou à certains événements du monde. Typiquement, quand un dragon arrive, parce que tu as des rencontres aléatoires de dragons, quand un dragon arrive, les soldats qui sont dans le camp, ils vont l'attaquer, les villageois, ils vont se cacher, donc c'est un petit peu tout ça. Mais ils vont aussi réagir à nos actions à nous. Un des trucs qui était mis en avant, un des exemples qui était donné, parce que ça, on peut en parler aussi en termes de communication, c'est un peu une bonne base à bullshit dans les promesses. On va te dire à la Peter Moulineux, ils vont faire ceci, cela, quand tu tues un forgeron, son fils va prendre sa place. Bon, non, il n'y a pas ce genre de truc, évidemment, aussi poussé, mais si tu fais tomber un objet, je crois que les gens peuvent te dire, vous avez fait tomber fait ça. Enfin, t'as plein de petites réactions du monde autour de toi, ou tout simplement, si t'es allé, c'est un truc que The Witcher peut faire dans une certaine mesure, si t'as tué des monstres d'une grotte ou un ennemi qui était dans le coin, parfois les villageois vont faire une remarque à ce propos-là.
Ouais. Oui, parce qu'ils vont pouvoir dire qu'ils peuvent y retourner, ils vont pouvoir s'y balader. Ah bah ça y est, on peut enfin, tu vois, ça y est, on pourra retourner dans la forêt. T'as aussi le truc des factions, parce qu'il y a souvent pas mal de PNJ où il y a beaucoup de systèmes de castes familiales, de tribus, de machins. Donc des fois, tu vas attaquer un personnage et en fait, bah il y a tous ses potes qui vont venir du coup l'aider parce qu'ils vont, ils vont réagir instantanément. Enfin, en fait, c'est un jeu où ils ont réussi à créer avec ce système-là. Alors, il y a eu pas mal d'itérations. Il y a d'ailleurs une conf que j'ai pu regarder d'un des concepteurs de cette idée de Radiant Stories où au début, ils avaient des tonnes d'idées qui leur paraissaient très bien, et une fois qu'ils étaient dans le jeu, ils se sont rendus compte que ça devenait tellement répétitif, tellement systémique, ouais, que dès que tu faisais une action, les joueurs allaient pouvoir l'exploiter et provoquer des réactions en chaîne qui allaient foutre le bordel dans
et
le jeu.
Et qui ne surprendraient plus forcément.
Et du coup, ça perdrait son intérêt. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment limité l'apparition de certains de ces événements, ils ont vraiment attribué des rôles à certains PNJ clés qui ont la possibilité comme ça de changer de casquette pour devenir des compagnons, pour devenir des ennemis, pour devenir des donneurs de quêtes, pour devenir des marchands, qui pouvaient changer comme ça de rôle, alors que j'ai le chat qui arrive sur les genoux, et donc en limitant ça, ils ont fait en sorte que ça ne soit pas suffisamment tu vois, ça se répète pas constamment, et du coup bah, on garde un peu cette surprise là en fait.
Mais alors dites-moi si je me trompe, mais c'est quand même des jeux, est-ce que ça descend pas un peu du truc Ultima, de cette philosophie là un peu de jeu presque immersive sim dans l'idée de dire bah, on va faire un monde cohérent et qui réagit justement à nos actions, et il y a ça dans l'ADN quand même du jeu.
Ah ouais clairement, bah, Ultima Underworld c'est une de leurs plus grosses influences, ouais, quand ils parlent de Arena ou de Daggerfall. Daggerfall qui est peut-être encore aujourd'hui le plus gros open world jamais créé dans un jeu vidéo.
J'invite les gens à regarder ce genre de vidéo qui compare les maps justement, ouais, des open world, et il y en a une qui est très bien faite où on voit vraiment Assassin's Creed, GTA 3 et à un moment il y a une espèce de grand dézoom, tu vois, on arrive sur Daggerfall, tu vois,
c'est comme les trucs des planètes,
oui oui oui, vraiment,
c'est sûr, genre, ça c'est le soleil, ça c'est un soleil à trois galaxies de là qui fait genre
exactement,
ça c'est la petite tête,
voilà, c'est No Man's Sky, hein.
Ouais ouais, il y a un côté No Man's Sky un petit peu, oui, alors No Man's Sky bon, c'est vrai que c'est plus grand maintenant, mais là du coup sur un plan comme ça, Daggerfall c'était tellement ambitieux, ça avait aucun sens, le jeu était tout cassé. Encore aujourd'hui, il y a des tonnes de patchs qui continuent de sortir, qui sont faits par de la communauté pour pouvoir arranger le jeu. Et donc, dès le début, ils avaient cette envie, non pas forcément de faire du pur immersive sim, mais de donner la sensation aux joueurs, aux joueuses, de pouvoir approcher chaque situation un peu comme ils le souhaitaient. Et c'est vrai que c'est resté, parce que dans Skyrim, ils ont beaucoup lissé leur système de jeu, et ils ont réduit à l'approche guerrière, l'approche magie, et l'approche infiltration, slash arc, slash assassinat. Et donc, c'est un peu ces trois grands pans de gameplay qu'ils ont conservés, et qui font qu'on peut choisir en fait notre approche comme on veut, quoi.
Une inspiration peut-être qu'on peut voir des immersive sims aussi, c'est en termes de mise en scène. Tu vois, dans Skyrim il n'y a pas de cinématique, c'est vraiment que du in-game, hein. Il n'y a pas de vidéo. Il y a quelques moments où on peut avoir éventuellement, on va être vissé sur une chaise et on peut regarder autour un peu, il y a des dialogues qui se passent autour de nous, ok, mais globalement, et ça je pense c'est un truc qu'on peut tirer peut-être de l'immersive sim, un peu l'école Half-Life aussi, qui fait ce genre de mise en scène.
Et puis bon, alors du coup, ça donne aussi des situations un peu comiques, parce que forcément, quand tu te rapproches des PNJ, quand ils passent à côté d'eux, ils vont sortir leurs phrases. On connaît tous la fameuse phrase du « moi aussi, j'étais un guerrier avant, je me suis pris une flèche dans le genou, gna 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 », des trucs comme ça. Ça donne des situations rigolotes où les types commencent à te parler, puis toi, t'es en train de te barrer parce que t'es en train de leur voler leur fromage dans leur étagère. Enfin, voilà, ce côté très libre, où même dans les discussions, ils nous enlèvent jamais le contrôle de notre personnage, ça participe, je pense, beaucoup à l'immersion et au fait qu'on se sente comme ça, vraiment investi par notre perso. Un autre truc qu'on n'a pas dit et que je trouve intéressant dans leur approche du RPG, c'est qu'on n'a pas de système de classe. Ouais. Comme on le disait...
C'était avant, hein, il y en avait avant.
C'était un peu plus limité, ouais. C'était pas du pur système de classe, mais dans Morrowind et Oblivion, il y avait quand même des petites restrictions par rapport à des choix dans les divinités ou les astres, ton signe astrologique, ce genre de choses. Là, vraiment, Skyrim, tu choisis la race de ton personnage, tu choisis son genre, et puis après, c'est parti, tu fais ce que tu veux, et ton personnage sera vraiment... tu vas évidemment déterminer des petites stats, hein, mais voilà, c'est ce que tu vas en faire qui va déterminer, et le fait qu'il n'y ait pas de classe, bah c'est pareil, ça permet une grande liberté, parce que tu peux très bien commencer ta carrière en disant je vais être un guerrier, tu vas tomber sur un bâton magique qui est incroyable, tu dis non, en fait c'est les boules de feu c'est cool, je vais plutôt faire des boules de feu.
La conseillère d'orientation, ouais c'est bon, t'as quoi, fais-toi plaisir, tu es content, t'as trouvé ce que tu voulais, c'est parfait.
Ouais, c'est un RPG qui est très, très accessible, entre guillemets, qui va se délester de pas mal de choses un peu compliquées, entre guillemets, de certaines barrières à l'entrée qu'on peut avoir, de charge mentale qu'on peut avoir au début d'un RPG, où va falloir choisir ta classe, ça va influencer sur tel type de choses, tu sais même pas encore éventuellement à quel point ça va impacter ta façon de jouer, puisque le RPG, c'est quand même... Un genre qui est assez déterministe hein, finalement ou au début mais qui va avec le roleplay hein, tout simplement où si tu veux jouer un magicien voilà tu ne seras pas barbare et c'est comme ça point final et là Skyrim te permet d'être ce que tu veux ça se retrouve comme vous l'avez dit dans les stats tu vas pouvoir changer d'avis au dernier moment il n'y a rien vraiment qui t'influence tu peux choisir des boosters d'XP éventuellement avec les fameuses pierres là tu peux je sais plus exactement comment ça se présente mais tu choisis peut-être la pierre plutôt magie la pierre plutôt combat la pierre plutôt infiltration et ça donne des bonus d'XP dans la pratique parce qu'on ça c'est important de le rappeler aussi c'est l'XP par la pratique fait que tu choisis ce que tu veux et ça se retrouve aussi dans toutes les quêtes que te propose le jeu puisqu'on a parlé de la quête principale mais il y a toutes les quêtes secondaires et tu peux être alors je sais plus comment ça s'appelle exactement mais le chef des magiciens le roi de la guilde des voleurs des assassins
Et ça ce qui est rigolo c'est que ça fait partie vraiment du folklore en fait des Elder Scrolls où tu as toujours des guildes donc qui ont pignon sur rue dans chacune des contrées comme ça du continent et il y a la guilde des mages il y a la guilde des assassins et ce qui est rigolo c'est aussi les conditions tu vois pour déclencher parce que du coup dans je crois que c'est dans Oblivion par exemple où pour voir la guilde des assassins il faut d'abord tuer un PNJ et quand tu vas te reposer ou un peu plus tard, il y a quelqu'un qui vient travailler dans ton sommeil en mode qui ressemble beaucoup là, à Palpatine avec sa capuche et qui te dit tu as tué quelqu'un, viens dans la guilde des assassins.
J'aime bien le mec qui surveille les gens qui tuent quelqu'un. Lui il est pas mal, il a bien tué, venez on le recrute, on en fait quelque chose.
Mais alors c'est évidemment ultra tu vois c'est complètement factice comme ce genre de truc mais ça marche à fond parce que ça donne en fait l'illusion qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Tu vois moi parmi les grands secrets des trucs que j'adore dans ces jeux là, c'est le fait que à un moment tu sais pas pourquoi tu vas tomber sur un ennemi qui va te mordre et une semaine plus tard, tu vas t'être transformé en vampire et ton jeu va complètement changer de visage parce que t'es devenu un vampire, t'as pas fait en sorte de te soigner, il y a une quête qui apparaît pour te dire soigne-toi sinon c'est la merde, mais tu peux choisir de dire non, je vais devenir un vampire et le jeu est pensé pour que les gens ils réagissent à ta présence, du coup t'es obligé de jouer plutôt la nuit, tu vas avoir des stats qui vont changer, enfin, tu vois, il y a ce côté un peu jeu ultime qu'ils essayent de donner à chaque fois et à chaque fois ils veulent en donner plus, tu peux te transformer en loup-garou, enfin tu peux, voilà. T'as tout un tas de secrets et de trucs que tu vas découvrir à force d'explorer et de connaître un petit peu les arcanes du jeu.
Et un truc qui vont changer par rapport à Oblivion, c'est le fameux scaling aussi, qui garde ce principe, c'est-à-dire que les monstres, les ennemis, ils gagnent en niveau avec nous pour pas qu'on devienne beaucoup trop fort par rapport à eux, mais c'est beaucoup moins fort que dans Oblivion apparemment. Alors je l'ai pas fait, hein, mais c'était assez compartimenté, on
genre
va dire, les zones...
Les chauves-souris du début, elles étaient quand même trop fortes à la fin.
Ça donnait une situation, moi, qui m'a toujours fait mourir de rire, c'est que dans Oblivion, donc les ennemis te gagnaient en niveau en même temps que toi, et en fait, à chaque fois que tu changeais d'équipement, de niveau, machin, ils s'adaptaient, et donc ça donnait des situations où, à la fin du jeu, t'avais des bandits, tu vois, des brigands qui arrivaient, genre, donne-moi ton or, avec une petite dague, sauf que la dague, elle vaut, tu vois, l'équivalent du PIB de 12 pays, il a des armures en verre, il a des armures d'ébène, tu sais, parce qu'il y a ces histoires de tirs,
mais les mecs
sont pas,
c'est toujours des bandits.
Ouais, donc ça donnait des situations.
C'est une passion.
c'est une vraie passion. Et donc ça, il s'était rendu compte avec les retours de nombreuses personnes que ça, en fait, ça perdait justement cette idée de sensation de puissance. Alors que au contraire, Skyrim, comme il y a zéro limite, tu peux au contraire devenir ultra puissant. C'est-à-dire que si tu t'amuses à monter toutes les statistiques, tous les trucs, tu prends tous les machins là dans les signes astrologiques, tu prends tous les points des arbres de talent, tu deviens un dieu quoi à la fin, vraiment. Hein. Tu vois les ennemis, tu fais pouf et hop, tu détruis une ville.
Mais t'as quand même des ennemis qui sont trop forts pour toi jusqu'à un certain niveau. Et moi, le moment que je trouve très intelligent dans le jeu, c'est que à côté du fameux Jarl qu'on peut voir très 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 rapidement dans le jeu, il y a les fameux géants avec leurs moutons qui sont des mammouths tout simplement, donc même leurs moutons ils sont beaucoup plus gros que nous, donc les géants on n'en parle pas, et d'ailleurs on parlait des bugs, c'est des trucs qui peuvent t'envoyer dans le ciel avec un coup de massue, mais parce que voilà la gravité
mais ils n'ont jamais changé, c'est
ouais,
des
ouais, tu vois, parce que ça fait partie, voilà, parce qu'ils sont très costauds. et en fait dès le début du jeu tu dois faire un choix, en fait le choix de ne pas les combattre, parce que tu peux si tu veux les combattre théoriquement, alors t'as pas de stuff je pense au début ou quoi, mais moi, je me souviens, après avoir gagné quelques niveaux, je me suis dit, bon, est-ce que je tenterais pas un peu un petit géant, quoi? Et je jouais un peu avec, parce que j'étais vraiment pas assez fort, mais je tentais beaucoup à l'arc, et je me cachais, justement, derrière les grands murs de la ville, et je continuais de tirer à l'arc quand je l'avais attiré, tu vois. Et ça, c'est des trucs, bah, le jeu te permet de le faire, ou juste de fuir, de choisir d'aller dans une autre ville. Donc il y a vraiment tout ce sentiment de liberté, car la liberté, c'est le choix, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Bah, c'est, en fait, c'est ça, c'est Skyrim, c'est vraiment, on avait noté ça, tu vois, dans le texte, on s'était dit, c'est vraiment l'aventure à la carte, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment toi qui choisis, à un moment donné, de faire quelque chose. Tu peux aussi te mettre des contraintes, tu vois. On pourrait peut-être parler d'un des gros aspects aussi qui est intéressant avec le jeu, c'est le fait que ça soit du roleplay. Mmh. Ouais, c'est vraiment un jeu qui donne aux toutes les personnes des outils pour s'imaginer un monde et vraiment s'identifier à son personnage, lui imaginer une histoire,
quitte à faire quelque chose qui n'est pas du tout l'histoire d'un élu et faire d'un élu
autre chose,
enfin de quelqu'un qui est élu par un élu, genre bonjour je suis préfet, mais quelqu'un, voilà, tu vas te dire, bah moi ce que j'ai envie de faire c'est être bibliothécaire et récupérer tous les livres du jeu et les mettre à un endroit, enfin voilà, tu peux.
Mais il y a une vidéo en plus d'un gars.
Oui,
c'est pour ça que tu disais ça.
Ouais, je ne l'invente pas, mais voilà, le jeu est permissif à ce point pour que tu puisses t'inventer tes propres histoires, et c'est pour ça, je pense que vraiment ça fait partie de ces rares jeux où justement le truc de dire bah c'est toi qui écris ta propre histoire, pour moi c'est pas trop bullshité, parce qu'effectivement il y a les outils et il y a la liberté pour le faire.
Et ça va assez loin, parce que ce que j'ai trouvé cool finalement avec le recul et en relançant le jeu, en voyant un petit peu où on en est aujourd'hui dans les open world, c'est de se dire que bah, on peut devenir extrêmement puissant, mais on peut choisir de se limiter. C'est-à-dire que les contraintes qu'on va s'imposer pour des pure décision de roleplay, ça va nous permettre de se dire, bon bah moi je vais jamais, tu vois, avoir suffisamment de, je sais pas, je vais jamais m'acheter tel genre d'équipement, je vais essayer de pas être trop puissant pour toujours garder une espèce de petite limite. Le jeu t'empêche pas de le faire, il va pas te forcer à devenir plus puissant, et comme tu le dis, tu peux ignorer instantanément la quête principale. Tu vois, on l'a pas dit par exemple, mais dans la quête principale au début, en fait t'as deux choix, tu peux soit rejoindre l'Empire, soit rejoindre justement les rebelles de Skyrim, parce qu'il y a une histoire de rébellion, il y a tout un, voilà, il y a quand même un espèce de contexte politique
Star Wars, quoi,
qui se passe, voilà, bon, exactement, il y a un contexte politique derrière, mais tu peux tellement ignorer ça et partir dans une autre direction, et 400 heures plus tard te rendre compte qu'effectivement, tu vois, t'as fini dans une taverne à Solitude ou ailleurs, et puis en fait tu t'es bien parce que tu peux t'acheter des maisons, tu peux te marier, tu peux avoir des compagnons, tu peux avoir des animaux, enfin vraiment il y a un côté un peu les Sims en fait, mais version aventure très action RPG, bah, mid fantasy,
c'est
quoi.
Ce que moi je me demandais, je me disais que finalement ce jeu il a réussi à, tu sais, faire le grand écart entre un truc, tu sais, c'est du RPG première personne, médiéval fantasy, donc a priori quelque chose qui est peut-être un petit peu niche, tu vois, et à côté, en fait, arriver à toucher un public extrêmement large, parce que justement, un peu encore à l'instar pour moi de Breath of the Wild, où tout le monde peut y trouver son compte, en fait, vraiment, peu importe quel est ton vécu, ton parcours de joueur, de joueuse, bah, tu vas avoir des moyens d'expression et d'agentivité, pour citer les grands penseurs du jeu vidéo, pour t'exprimer et trouver ta place dans ce monde-là, quoi.
C'est ça, ouais, il y a vraiment deux trucs. Le premier qu'on a déjà dit, c'est ce fantasme un peu de la liberté avec
de l'escapism, des trucs comme ça.
Il y a son monde qui est organique, qui réagit à notre présence et tout, et toute cette liberté de faire ce qu'on veut, hein, tuer un dragon ou même mieux devenir propriétaire. et comme tu le dis, c'est vraiment le côté escapism. Le jeu arrive à donner envie, en fait, à donner une fenêtre sur ce fantasme. Et comme on l'a aussi évoqué, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée, en fait. Il n'y a pas toute cette grosse fiche de personnage qu'on va devoir remplir, de devoir comprendre plein de choses autour de nous. Non, on est jeté assez rapidement dans le jeu, et dès le début, on va pouvoir faire toute une liste de quêtes, aller où on veut. Et ouais, c'est très très grand public.
Et t'as plein de systèmes de gameplay qui sont mis en place pour t'aider justement à te, bah, comme tu disais, à t'exprimer ou à vraiment t'aider à gagner en puissance, parce que tu vois, par exemple, tu peux enchanter des objets, tu peux fabriquer des objets, tu peux les détruire, enfin tu peux aller à la forge et travailler à côté du forgeron, il va t'apprendre à fabriquer des petites épées, et puis bah plus tu vas forger, tu vois, c'est littéralement en forgeant tu deviens forgeron, mais incroyable.
C'est incroyable cette émission.
Voilà, toutes ces petites idées qui me viennent, celle-là je l'avais pas écrite, je suis plutôt content. Non mais bref, et de pouvoir faire ces trucs là c'est assez naturel, en fait. Il y a, tu vois, justement il y a cette idée qu'on retrouve beaucoup dans Zelda, où si tu penses à quelque chose, il y a des moyens que le jeu lui aussi y ait pensé et que tu puisses le réaliser. Et tu te dis, ben, je vois un forgeron, et en fait l'outil qu'il utilise, c'est pas un faux outil comme dans plein de jeux, c'est littéralement, ben, c'est la roue que tu vas pouvoir utiliser pour aiguiser ton arme. Et c'est malin, parce que ben, ça donne en fait une vraie identité à ce jeu là et si tu vois un outil et quelqu'un qui est en train de l'utiliser, tu vas pouvoir attendre qu'il est fini et tu vas y aller, tu vas fabriquer des potions.
Le jeu a une logique qui ouais. se tient quand tu es dedans. Et après, ce qui est important aussi, c'est que en termes de gameplay, hein, vraiment, voilà, le combat, la mêlée et tout, je pense qu'on peut le dire, c'est vraiment pas la force du jeu, vraiment pas. Hein. Moi, à titre personnel, je trouve ça abominable, hein. Vraiment. Enfin, je suis assez exigeant quand même sur le combat mêlée parce que c'est quelque chose que j'aime bien dans le jeu vidéo. Et là, c'est vrai qu'en jouant à Skyrim, t'es là, t'es ah ouais, on est sur quelque chose de très rudimentaire, hein. Vraiment. Le mec, il tape limite dans l'air. Il y a vraiment des feedbacks quasiment inexistants, mais c'est très simple en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment fonctionnel et encore une fois, je pense que ça participe à faire quelque chose de grand public, c'est-à-dire que le système de combat, comme il est rudimentaire, c'est pas lui qui va t'empêcher de progresser. Tu vas pas te dire ah oui mais j'arrive pas bien à esquiver, ah oui mais j'arrive pas bien à bloquer, j'arrive pas bien à faire les bons à faire les bons coups. Dark Souls, tu vois, à côté, c'est voilà, c'est l'opposé de ça en termes de gameplay. Et je pense que ça, encore une fois, ça participe au côté grand public pendant que le chat nous tape des sprints entre les entre les micros. Mais voilà, encore une fois, je pense que cette simplification, pour moi, c'est un défaut parce que bah, c'est quelque chose que je recherche. J'aime bien avoir des bonnes sensations en combat. Et c'est vrai que Skyrim, pour moi, c'est une purge à chaque fois. Et en fait, le problème, c'est que toutes les quêtes qu'on me dit, c'est à un moment, tu vas te taper. Et je fais, eh, mais j'ai pas envie. Donc, j'ai pas trop envie, en fait, de faire les quêtes. Mais voilà, je pense que ça fonctionne bien et que ça donne le côté, encore une fois, grand public au jeu.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand même un côté, faut le dire, parce que là, on parle que des qualités et tout. Il y a aussi un côté assez répétitif dans le jeu. Mais oui, il y a des identités données à certaines ruines, à certains souterrains, à certaines grottes et tout. Mais il y en a quand même beaucoup, c'est très souvent le même schéma un petit peu, tu vas débloquer
oui,
le
raccourci le début, voilà.
Les ennemis aussi, ça va souvent être les mêmes ennemis qui sont à l'intérieur, donc quand t'en as fait 5, t'en as fait les 50 qui peut y avoir, je sais plus combien il y en a, et bah, même les dragons, tu vois, qui sont vraiment l'argument du jeu, et effectivement ça marche bien au début, mais pareil, t'en as des dizaines, ouais, ça va quoi, les combats sont pas ultra ultra variés.
Surtout qu'au bout d'un moment, tu deviens potentiellement tellement fort que les dragons, enfin c'est une formalité quoi, vraiment t'arrives, tu fous Roda, dégage. Non mais il y a forcément, tu vois, c'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que toute cette liberté, elle est, comme tu le dis, elle existe parce qu'il y a des choses très basiques en termes de gameplay. Je sais que moi, par exemple, Elder Scrolls, ça fait maintenant 15 ans que j'y joue toujours de la même manière. C'est-à-dire que je sais que le corps à corps, je trouve ça absolument naze. Une purge, comme l'a dit un grand penseur de notre temps.
Non, c'est pas une purge. Alors, je sais pas si c'était moi le grand penseur, mais non, c'est pas une purge.
Je te
cite. Mais c'est
ça, t'as pas de sensation.
Voilà,
tu vois,
zéro sensation.
Et comme dit, moi, en plus, à cette époque-là, en 2011, alors j'avais pas encore joué à Dark Souls, puisqu'il sortait quelques jours après, ou il venait juste de sortir, j'ai plus les dates exactes en tête, mais j'étais déjà complètement camé par Demon's Souls, et forcément je savais que j'allais pas m'amuser en faisant ça. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contourné le jeu, je jouais archer de loin, discret, pour one-shot les ennemis et simplement profiter de la balade, et en fait ça s'est très bien passé. Et au final, même si le jeu, bah, j'ai encore beaucoup de griefs contre lui parce que ça bug, parce que l'écriture elle est pas ouf, parce qu'il y a des problèmes de cohérence, tu vois, où tu vas tuer un personnage puis il réapparaît dans une autre quête plus tard, t'es là pff. Bref, ces petits genres de soucis qui sont vraiment gênants et que je repère énormément, ben cette idée de pouvoir se balader, de faire sa vie et de ne serait-ce que le temps de prendre possession de tous ces lieux, ça m'a occupé plus d'une centaine d'heures, donc je peux pas me plaindre fondamentalement, tu vois.
Moi j'ai joué assez peu à Skyrim, hein, c'est vraiment pas un de mes jeux de cœur, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui revient quand on parle de Skyrim, c'est le nombre d'heures que les gens ont englouti dans ce jeu.
Ouais.
Ça se compte toujours, enfin toi Maxime, tu dois être à la centaine aussi.
Ouais, voilà. Soit 120 ou 30.
Voilà. Et
ça,
encore,
ouais.
Vous êtes des petits joueurs,
mais oui,
bien
sûr.
Vraiment, enfin Skyrim, c'est un gouffre, et je pense que c'est aussi ça en fait qui fait la force de ce jeu, c'est que les gens l'ont côtoyé si longtemps que ça, forcément en fait, de fait, ça occupe une place particulière dans ton cœur, parce que bah, tous les jeux ne sont pas capables de t'occuper aussi longtemps, de te baigner dans cet univers-là aussi longtemps. Il y en a très peu de jeux qui sont vraiment capables de ça. Depuis, il y a eu The Witcher 3, on reviendra d'ailleurs peut-être un petit peu dessus, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup des jeux qui sont capables de faire ça, quoi.
Et avec cette idée qu'il y a une telle liberté que tu peux t'amuser à recommencer des personnages, là je disais, j'ai cherché des blogs en fait, parce que je me suis posé la question du succès du jeu, parce que un des trucs par exemple qui nous a tous surpris tous les trois quand on a commencé à regarder l'émission, c'est le delta gigantesque entre les ventes d'Oblivion et de Skyrim. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, on a pas mal de petites pistes, mais j'ai cherché et je suis tombé sur un article de blog d'une joueuse qui expliquait un peu ses différentes approches, où elle disait que sa première partie qui a duré 300 heures, elle est devenue la plus puissante possible à la fin, vraiment, elle avait des bombes nucléaires à la place des mains. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça l'amusait pas, donc elle a recommencé d'autres personnages où volontairement, elle allait se mettre des grosses contraintes pour dire, bah, je vais rester très faible, je vais être une petite voleuse de grand chemin, je vais détrousser les trucs. Et en fait, elle a passé encore plus d'heures à juste ça, sans jamais,
une
tu
passion,
vois, gagner.
On le disait tout à l'heure, la passion du grand banditisme de grand chemin.
Et c'est pour ça qu'elle comparait ça, dans une certaine manière, à une approche un peu à la Sims, où tu vas vraiment t'attacher à ton personnage ou à tes personnages que tu vas t'être créé, parce que tu vas leur inventer cette histoire-là. Et même si le jeu ne prendra jamais en compte la moindre de tes décisions à base de j'étais un noble, j'étais un pirate, j'étais un guerrier, un vétéran, peu importe, on s'en fout, le jeu s'en fiche, mais toi, ça existe dans ta tête, donc c'est comme si ça existait dans le jeu. Il y a ce rapport-là que je trouve cool, et ce que je trouvais marrant, c'est de rapprocher le fait que Skyrim est sorti une semaine avant la version complète d'un certain Minecraft, qui propose fondamentalement le même genre de promesse de vous pourriez faire ce que vous voulez, le côté bac à sable, bac de Lego, vous pouvez vous inventer une histoire, etc. Alors évidemment, il n'y a pas toute la surcouche action, aventure, RPG, heroic fantasy, mais je trouve qu'on est vraiment dans cette époque où les jeux comme ça nous disent, ben, débrouillez-vous, tu vois, genre faites-vous votre truc, faites-vous votre machin, on arrête de vous imposer quelque chose. C'est un peu vraiment des jeux qui cristallisent ça.
Et si jamais t'es pas satisfait, bah t'installes des mods, tout simplement.
Bah oui,
c'est l'occasion d'en parler.
C'est vraiment le, bah, ça pour le coup, comme on l'avait dit, hein, le fait qu'il y ait les, le chat, il est excité aujourd'hui. Il est content de vous revoir. Hein. Mais ouais, il vous avait pas vu depuis longtemps. Donc ouais, depuis Morrowind, on peut installer les fameux mods. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça a toujours été un peu un truc de PCiste, tu vois, il faut trifouiller, etc. Pendant très longtemps, la promesse, c'était que Bethesda arrive à les installer sur console. Dans une certaine mesure, c'est impossible aujourd'hui sur Xbox de récupérer des mods, etc. C'est pas aussi souple. Par contre, sur PC, il s'est passé un truc incroyable avec Skyrim, c'est que c'était plus ou moins le même moment. Quelques mois plus tard, Valve ont lancé le Steam Workshop. Et alors là, ça a tout changé. Parce que d'un coup, on pouvait installer le jeu, on cliquait sur un truc dans Steam et le mod s'installait, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de problème. Enfin, c'était vraiment ultra simplifié. Et le modding, Max, enfin, tu peux tout faire, quoi.
Oui, après bon, moi j'ai pas une très grosse expérience du modding, je suis pas très main dans,
toi,
dans
Max,
le cambouis.
Le modder, le ouais, modder de l'équipe.
C'est vrai que là il m'a mis la casquette modder.
Non mais dans ma tête c'était le PCiste quoi, comme t'aimes bien les FPS, les machins, tu vois.
Oui, et complètement, les jeux oui, mais tout ce qui est ensuite entre guillemets la vraie culture PC, genre monte sa tour, mettre des mods, non j'étais pas très main dans le cambouis, tu vois. Par exemple,
voilà.
Tout ce qui était téléchargement, oui j'ai connu ça.
Il va encore y avoir des déçus dans cette émission, aucun vrai PCiste dans cette émission.
Même le téléchargement, tu vois, tout ce qui pouvait être musique ou quoi, je le faisais avant évidemment quand j'étais mineur et pas légalement responsable
des actions.
Désolé le FBI. mais même les jeux, tu vois, j'étais moins à l'aise sur le téléchargement de jeux, j'étais un peu je sais pas, ça va être compliqué, il va falloir trifouiller dans les dossiers et tout, mais
sortir les ISO ces trucs.
Alors pourtant, tu vois, moi je trouve que ça fait partie justement de encore une fois de ce folklore de Skyrim où tu te dis ah mais c'est génial, je vais mettre un truc pour pouvoir voler, pour pouvoir avoir un inventaire plus gros, parce que tu te dis ah mais je peux pas tout porter, je voulais absolument ramasser toutes les cailloux de la terre, etc.
Par contre, voilà, les mods et Skyrim, oui, c'est une histoire qui va vraiment main dans la main. J'imagine que le Steam Workshop a été vraiment accéléré, voire enclenché par Skyrim.
Bah, au début, c'était pour TF2, tu vois, c'était pour Team Fortress 2, pour que les gens ils puissent partager des trucs.
Les
et
chapeaux,
puis, Skyrim est arrivé par là. Et je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas dissocier le succès de Steam et justement de Skyrim dans une certaine mesure, parce que ils ont facilité l'accès à ce genre de trucs.
Du modding, en tout cas.
Du modding,
Steam, oui, Iki, c'est important de le dire en contexte, il y a, parce que tu parlais du Creation Kit, et ça, c'est effectivement quelque chose qu'ils ont, alors peut-être pas toujours fait, mais qui faisaient déjà avant Skyrim, où ils font le moteur du jeu, ils font le Creation Kit, et ensuite ils permettent aux modders d'ajouter des choses, et on parlera un petit peu plus du phénomène Skyrim, bon on va en parler juste après je pense, mais il y avait ce côté où tous les deux mois t'as l'impression qu'il y avait un screenshot, et maintenant c'est ça Skyrim, avec
regardez
les nouveaux modes du Nexus,
Skyrim,
voilà Skyrim
avec...
c'est magnifique, on a rajouté des feuilles qui tremblent, on a rajouté je sais pas trop quoi, maintenant
je regardais
4K,
du coup la vidéo de mai 2020,
regardez les images,
non mais tu tapes Skyrim HD ou Skyrim 4K et tu mets 2019-2018-2020, chaque année, voilà, ouais, bah, un jour, tu me dis que c'est la prochaine évolution, ils vont en faire un Skyrim avec du ray tracing ou un truc comme ça, et tu le sais qu'il y a ces modes purement graphiques, mais il y a tellement de choses, enfin évidemment, donc il y a toute la partie mode pour adultes avec les différents modèles de nana, etc., pour que tu fasses ressembler
bien
ton jeu à ce que tu veux,
bien sûr.
Bah, c'est la rule 34, hein, sur internet c'est normal, mais il y a aussi tellement de trucs, tu vois, pour modifier les quêtes, pour modifier le gameplay, t'as ce qu'on appelle les overall qui changent complètement le jeu, avec évidemment les exemples extrêmes de Enderall, Nerim, etc., mais Et c'est tellement puissant que tu vois, ils veulent même refaire les vieux jeux. Il y a un projet qui est en cours depuis des années qui s'appelle Skywind, où en fait, c'est des gens qui essayent de refaire Morrowind avec le moteur de Skyrim. Bon, ça avance doucement, hein, parce que c'est évidemment des projets bénévoles. Mais voilà, le modding dans Skyrim, ça te permet de continuer ton expérience et d'ajuster. Quand tu dis qu'il y a un truc qui te saoule, bah, c'est pas grave. Tu vois, c'est vraiment, encore une fois, l'aventure à la carte. T'es là, ben, tu veux porter plus de poids, tu veux que ton épée elle soit plus puissante, tu veux plus d'argent, tu veux pouvoir te marier avec plusieurs personnes, tu veux plusieurs maisons, tu veux 12 chevaux, ben, enfin, n'importe quoi. Tu peux imaginer ce que tu veux. Il y a probablement un mode qui permet de le faire. Ouais, donc c'est assez riche là-dessus. Et il y a évidemment tous ces modes graphiques qui permettent de continuer de faire avancer le jeu. Dès qu'il ça bouge, c'est-à-dire que quand c'est des petits travelling dans les décors, c'est très très beau. Et tu te dis, ouah putain, le jeu, je vais le relancer. Et là, tu vois une scène de combat et t'es là.
Les animations, par contre, ça n'a pas beaucoup bougé.
Ils n'ont pas trop changé. Il y a des trucs hein, qui essayent de les changer, mais c'est vrai que bon, il y a quand même des petites limites. Mais par contre, voilà, le côté visuel, tu peux continuer de te taper ton délire de randonnée et d'escapism où tu vas te balader dans Skyrim. Quoi.
Et une des raisons pour lesquelles les mods sont aussi populaires, donc on l'a dit dans un premier temps, il y a eu toute cette intégration à Steam, etc. Mais ça se partage beaucoup mieux bah, sur les réseaux sociaux. Tu as vu la vidéo sur YouTube, etc. Les screenshots, on pouvait les voir, je sais pas, sur Reddit, sur 9gag à l'époque. C'est le moment de parler un petit peu de tout ça.
Vas-y, hein.
Avant ça, on peut revenir un petit peu dans les années, plutôt les années 2000, parce qu'on donc on le rappelle, là on va parler un petit peu, on se pose la question de comment, pourquoi Skyrim a...
Pourquoi Skyrim a autant pété en fait qu'il a pété, pourquoi ce truc-là, alors qu'il y en a un qui avait vendu 5 millions juste avant, en une semaine il en fait 7 ou 8, ouais. Enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce jeu à ce moment-là, ça devient le phénomène que c'est et qu'on connaît aujourd'hui qui est... un marqueur de la culture geek au sens général. Enfin, on connaît tous Skyrim, quoi. C'est pas possible. Si tu joues aux jeux vidéo, c'est difficile d'être passé à côté. Quoi.
Ouais, parce que ce qui est ouf, c'est pas qu'il est cartonné parce que le jeu. Alors, si, parce que le jeu est bien, il a parlé à beaucoup de gens, etc. Mais il a cartonné dès le départ. En fait, il y avait une hype de ouf déjà au trailer et tout, on en a parlé. Et parce qu'il y avait un terreau, on pense, qui était déjà très favorable. Et je pense qu'on peut remonter déjà un petit peu dans les années 2000. Où bah, toute la culture, entre guillemets, la culture geek de l'imaginaire, elle connaît quand même, je dirais pas un renouveau, je vais pas dire que cette décennie, on a plus qu'à décennie avant ou quoi, l'idée c'est pas de hiérarchiser, mais on peut noter quand même que, bon déjà il y a eu les films Seigneur des Anneaux, hein, c'était un carton quand même monumental.
C'est explosé quoi, tu vois, ouais. C'est ça. Hein,
ouais. C'est pas qu'il y a eu un renouveau, mais c'est qu'elle a passé un autre stade, en fait. C'est qu'avant, pour moi c'est un peu ça, c'est que jusque, allez, mi-2000, c'est un peu encore une sous-culture, et après bah, ça va devenir la culture pop, et la culture des gens finalement qui ont 20-30 ans, bah c'est nous, donc voilà quoi.
Parmi les œuvres quand même qu'on cartonnait, je continue un peu dessus, il y a eu le film Seigneur des Anneaux, il y a eu la nouvelle trilogie Star Wars, il y a eu Harry Potter qui est quand même aussi une licence énorme de cette époque. Tu peux citer d'autres trucs, je sais pas, Twilight, c'était bon un peu plus vers la fin, mais
si on parlait de vampires, c'est bon, hein, ouais, c'est ça.
Mais Twilight, je sais pas, Walking Dead dans une certaine mesure aussi, c'est ouais, je crois un point moins geek, mais en termes de succès et tout, enfin, il y a, alors c'est trop tôt pour en parler à ce moment-là, mais la première saison de Game of Thrones a été diffusée quand Skyrim sort, donc il y a quand même plein de pierres.
Moi, je pense que ça joue énormément. Hein, parce que, justement, cette première saison de Game of Thrones, ça a vraiment, tu vois, mis un pied à tout le monde dans l'heroic fantasy. On peut en faire un truc cool, adulte, machin, bidule. Et dès la première saison, enfin, Game of Thrones, tout le monde en parlait instantanément.
Quoi. Encore, je pense que c'est saison 2-3 que ça commence vraiment à péter.
En France, en plus. Moi, j'étais...
Oui, mais oui, bien sûr. Les gens qui avaient HBO, on les connaît, Benoît.
Je l'ai vu aussi, la première saison, mais t'en parlais pas avec tout le monde.
Je trouvais, moi, que dès cette époque-là, tu vois, genre, t'as regardé ce truc-là, machin, enfin tu vois,
neige.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et je pense qu'on l'a bien senti, tu vois, depuis Matrix, dans les années vraiment pile 2000, il y a eu cette, enfin, ou 99, j'ai un doute là maintenant.
Ouais, 99.
T'as vraiment le côté geek qui a commencé à prendre le pas sur la culture un peu mainstream et qui s'est finalement imposée d'elle-même.
Elle s'est diffusée dedans et voilà,
et en fait, tu vois,
a pris sa place.
Je veux dire, c'est aussi l'époque, alors c'est pas encore la grosse époque Marvel, Disney, etc., mais c'est quand même le début des premiers films. Je crois que doit y avoir les films, les Iron Man ou les
Captain
Fantastic.
Enfin,
tu commences à avoir comme ça des films de super-héros qui commencent à sortir, qui sont des super productions. Il y a des trucs d'heroic fantasy, donc évidemment, surfer sur la vague après donc le Seigneur des Anneaux. On l'a dit, il y a la fantasy tout court avec Harry Potter. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là commencent à vraiment cartonner. Les livres cartonnent, donc le cinéma cartonne, et là-dessus t'as Skyrim qui est un peu la promesse ultime du vivez votre aventure quoi.
Ouais, le jeu vidéo aussi prend beaucoup d'ampleur.
C'est la HD, commence à être un peu mûr, tu vois, ça fait 4-5 ans que les consoles sont installées, donc ça y est, le parc est bien installé et voilà, les gens sont prêts à recevoir ce Skyrim là.
On peut quand même citer, tu vois, 2004, c'est World of Warcraft, ça aussi c'est quand même un gros succès, et on en parlait entre nous, t'avais des pubs avec des stars qui justement font basculer entre guillemets le gaming gaming dans un côté un peu plus pop. T'avais, c'était quoi World of Warcraft le slogan et toi
c'est à quoi tu joues
Mister T, oui voilà toi, à quoi ouais, tu joues, ouais, joues ouais. Mister T je trouve c'est un peu old school mais t'avais quoi, bon j'allais dire Ozzy Osbourne, c'est pas beaucoup plus, moins c'est pas wow, beaucoup c'est plus pas... jeune, mais il y avait Alexandre Astier, on s'était dit un peu,
oui,
c'était
voilà,
quelques
c'était
années après
c'est
par contre
peut-être sorti après du ouais, coup, mais voilà il y avait Astier qui était passé,
oui on parlait de l'influence de Kaamelott sur le succès de Skyrim,
bien sûr,
on sait que Todd Howard est un grand fan, il saoule tout le temps d'ailleurs avec les mêmes citations. Non, bref.
Non, mais l'idée, c'était de se dire, ben, déjà, World of Warcraft 2004, donc c'est surtout 2005 et 2006 avec Burning Crusade et l'autre, donc Wrath of the Lich King, qui ont vraiment fait pousser les jeux vidéo vraiment dans la... Comme tu dis, c'était les 20-30 ans, donc les gamins, tu vois, qu'on était dans les années 80, ont commencé à être adultes, on arrivait dans le monde du travail, on commençait à jouer avec les collègues, le vendredi soir, il y avait Raid, etc. Et en fait, ben, ça faisait que petit à petit, être gamer, c'était devenu finalement un truc que tu disais, tu vois, entre la poire et le dessert, ça devenait plus un truc où t'avais limite honte, entre guillemets, comme dans les années 80-90.
Ouais, parce que Internet aussi se démocratise beaucoup plus, et là on en arrive un peu à cette... Voilà, on en arrive à cette seconde vague où là c'est plutôt début des années 2010, et là tu vas avoir les réseaux sociaux... tel qu'on les connaît aujourd'hui, vraiment le web 2.0, mais aussi YouTube, vraiment, qui va devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, le phénomène Let's Play, à partir de... Amnesia The Dark Descent, c'est 2010, donc t'as PewDiePie, c'est 2010-2011 à peu près, on l'a dit, il y a Minecraft qui sort une semaine après Skyrim, ça aussi, ça va devenir, et ça l'est toujours aujourd'hui, un phénomène incroyable sur YouTube.
C'est toujours le jeu
c'est
le plus
le jeu,
vu
voilà.
Sur YouTube.
Et il y a un gap énorme avec
Minecraft,
le numéro 2.
Skyrim, début des années 2010, ouais. Sur YouTube, c'est ça, je veux dire, Pyro Barbare, ces gens-là, Bob Lennon, toute cette clique. Enfin, c'est là-dessus, ces jeux-là, ils vont faire naître des carrières, entre guillemets, mais du contenu comme ça qui arrive sur YouTube, enfin, c'est n'importe quoi. Et Skyrim va vraiment, je pense, bénéficier de ce truc-là.
C'est ça, parce que t'as aussi, on peut dire, t'as l'e-sport qui prend sa nouvelle ampleur avec Twitch, Justin TV qui est devenu Twitch, t'as StarCraft 2 qui commence, League of Legends qui va pointer le bout de son nez d'ici quelques années. Enfin bref, t'as toute cette nouvelle vague, les sites, comme on disait, peut-être un peu plus, entre guillemets, geek ou culture internet, que Facebook ou quoi, t'as Reddit ou 9gag. 9gag pour moi c'est vraiment mainstream, tu vois, à l'époque où j'étais, et t'avais tous les memes Skyrim, on le disait, t'avais les screenshots Skyrim, c'est vraiment ce côté, ces petites fenêtres d'escapism, tu les avais sur des sites beaucoup plus mainstream en fait.
Skyrim, si t'étais sur internet et que t'étais un peu dans ces trucs là sur des eaux, et que t'avais des gens de ton âge, de nos âges, tu vois, qui étaient Skyrim, c'était immanquable, tu ne pouvais pas le louper. Si t'étais sur 9gag, tu pouvais pas le louper. Si t'étais sur YouTube et que tu tapais jeux vidéo, tu pouvais pas le louper. Le 3615 Usul, ça parlait Skyrim. Bob Lennon, c'était Skyrim. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs là cette culture internet. Même on faisait blague à la noix là avec le JDG en fond de juron et tout, enfin tu vois ce que je veux dire, ce mec là il a construit une partie de son lore sur celui de Skyrim, parce que c'est connu à ce point-là sur internet et sur la culture geek. Donc c'est, le jeu il prend une ampleur en fait. Alors c'était du pain béni hein, évidemment pour Bethesda, mais je pense qu'ils pouvaient pas prévoir ça, c'était pas possible.
Là il le disait, ça les a vraiment surpris sur la quantité de réception d'ailleurs, et je crois même que ça les a bloqués, et c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à passer à autre chose par la suite, tu vois. Ils ont continué à faire des extensions, il y a eu combien, 3 ou 4 extensions
de Skyrim?
Skyrim il n'y en a eu que 2, il me semble, 2 ou 3, pas plus, mais après ils étaient bloqués, c'est-à-dire qu'ils continuaient de le sortir, ils ont fait la spéciale édition qui était une espèce de remaster, mais ils n'arrivaient pas à passer à autre chose, et même encore là ils sont toujours encore dans l'expectative, et ils vont d'abord faire Starfield avant. Mais par contre ils ne s'attendaient pas à un tel succès, et comment je voulais dire, c'était le fait que, comme vous le dites, il y a eu tellement de contenu généré par les utilisateurs que ça faisait le marketing du jeu. C'est-à-dire que, tu vois, ils n'avaient même pas besoin de faire de pub, en fait. Ils n'avaient même pas besoin de faire des pubs comme World of Warcraft. Enfin, ils s'en foutaient. Tu allumais, comme tu dis, n'importe quoi. T'avais les blagues avec les flèches dans le genou, t'avais les vidéos, t'avais les machinimas, t'avais les chansons. Enfin, t'avais des tonnes de trucs autour de Skyrim. Et encore aujourd'hui, il y a du contenu qui continue d'être créé, quoi.
Ouais, tu le disais. Tu parlais de Bethesda, qu'on a eu du mal un petit peu à se renouveler ou quoi, vraiment capitaliser sur cette formule. Ils ont quand même fait Fallout 4. En 2015, si je dis pas de bêtises.
2015 ou 2016, peut-être, mais bref. Voilà.
Ils ont quand même transféré un peu d'expérience de Skyrim. Le bouquin le mentionne notamment sur la narration environnementale. Fallout 4, c'était quand même un des gros points forts de mémoire, de ce que j'avais pu lire des tests ou quoi, de Fallout 4. Mais voilà, le jeu n'a pas vraiment marché plus que ça auprès des joueurs.
Ce que t'appelles narration environnementale, c'est le fait qu'on pouvait se balader vraiment n'importe où, on tombait dans une petite pièce, un petit bunker, et il y avait une petite histoire. l'histoire, il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait déjà peut-être les prémices de ça dans Skyrim, mais ça s'est vraiment formalisé avec Fallout 4. Et même Fallout 76, limite, ça devait être une machine à faire ça, hein, à faire des espèces de
micro-histoires.
Ouais,
l'idée, c'était de proposer en fait Fallout, la promesse de la liberté de Fallout, mais en mode multijoueur. Alors bon, ça n'a pas marché, mais Skyrim, ils l'ont encore une fois plein, ils l'ont fait dériver, puisque bon, il y avait du coup le jeu de cartes, il y avait, Legends, qui n'a pas fonctionné, qui était censé concurrencer Hearthstone et tout, parce que c'est aussi cette période-là. Il y a évidemment The Elder Scrolls Online qui est sorti depuis, qui du coup, lui, fonctionne très très bien et continue de faire visiter en tout cas tout ce monde-là, tout cet univers-là aux gens. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Bethesda, Skyrim, ça leur a permis de vraiment s'asseoir définitivement, tu vois, comme un des studios majeurs et de se dire qu'ils allaient conserver comme ça leur talent et essayer d'aller vers autre chose. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Fallout 4. Bon, ça n'a pas connu le même succès, clairement pas.
Fallout 4 a bien fonctionné commercialement, mais sur le plan critique, voilà, aujourd'hui,
on l'a un peu oublié.
5 ans plus tard, je sais pas si on l'a oublié parce qu'on n'a pas trop joué, mais il a moins marqué que Skyrim, c'est sûr.
Fallout, en fait, c'est vraiment une relation complexe parce que du coup, la différence entre Fallout 1 et 2 est tellement violente Fallout 3 qui a vraiment déçu pas mal de gens à l'époque, ou en tout cas, moi, je ne traînais qu'avec des gens qui étaient déçus, donc on se donnait raison entre nous, tu vois, de dire oh, c'est quand même décevant ce jeu-là. Et pourtant, il y a encore des gens qui jouent à Fallout 116, donc il y a évidemment des fans, mais ce que je veux dire, c'est que ils ont toujours eu ce côté un peu complexe et une relation un peu difficile. Et les Elder Scrolls, c'est leur truc où ils vont y revenir un jour. Et ce que j'avais trouvé hallucinant, c'est que donc à l'E3 2018, l'E3, alors pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'était un salon du jeu vidéo. Non, parce que c'est fini, tu vois.
Oui, bien sûr.
Mais bon, voilà, c'était vraiment le truc. Et Todd Howard, il a juste montré un petit trailer où on voit des décors et on voit un logo Elder Scrolls 6.
C'est marqué, mec. T'as un ciel là, tu trouves quelque chose sur Google, tu marques Elder Scrolls 6 et c'est bon, on envoie ça.
Et ben, c'est littéralement ça. C'est juste un teaser pour dire on travaille dessus, c'est là, genre.
Ça existe.
Voilà, ça existera un jour.
Ah bon, ça existe.
Sachant qu'a priori, ils sortent Starfield avant, ça veut dire qu'alors même nous, alors oui, fin du game, la pieuvre, etc. Non, Elder Scrolls 6.
Moi, j'ai pas envie de douter de nous là-dessus, j'ai pas envie de douter de nous.
C'est que déjà, c'est même pas leur prochain jeu, c'est le jeu d'après dont ils viennent de montrer une carte postale.
Parce qu'il y a une pression, en fait, qui est telle. Les gens, en fait, ils veulent. Tu vois, et le pire, c'est qu'il y a pas mal de gens, ils veulent Skyrim 2. Ils veulent pas The Elder Scrolls 6. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'ils ont fait comme travail à côté sur The Elder Scrolls Legends, The Elder Scrolls Online, etc., c'est pour faire comprendre aux gens que ça s'appelle The Elder Scrolls, pas Skyrim, parce que vraiment, Skyrim a pris une place qui est complètement...
Tu vois, on dépassait la série en fait.
Ouais, c'est un truc de la culture pop aujourd'hui.
On dit Skyrim, on dit pas c'est The Elder Scrolls 6, sous-titre Skyrim. C'est Skyrim quoi. Et ce qu'on avait noté aussi d'intéressant, c'est que finalement, 10 ans après, des jeux comme Skyrim, des jeux qui arrivent avec une telle proposition, à la fois dans une telle ampleur, mais aussi avec ce que le jeu arrive à faire, il n'y en a pas en fait.
C'est-à-dire qu'on
On pense évidemment à The Witcher 3, parce que déjà le scope aussi était quand même assez massif, mais c'est quand même très différent parce qu'il n'y a pas ce côté coquille vide, je crée ma propre histoire. Là, non, c'est Geralt de Rive qui va chercher Ciri, enfin bon, vous connaissez les bails. Mais ce n'est pas pareil, quoi. Il n'y a pas ce même jeu et il n'y a pas grand monde qui est venu s'aventurer sur ce terrain-là. Autant la formule Assassin's Creed et tout, alors ça, il n'y a pas de problème, on en a tous les ans, il y en a qui sortent, pas de problème. Des GTA, là aussi, finalement, ils font leur recette aussi un petit peu dans leur coin, et Elder Scrolls, c'est un peu pareil, il n'y a pas eu de jeu, et voilà, presque 10 ans après, on attend toujours, finalement, un héritier à Skyrim, et je pense que c'est ça, encore une fois, qui participe au statut culte, mais plus que culte en fait, parce que culte c'est pas le bon mot en fait, du statut de monument, de truc, de marqueur vraiment de la culture jeu vidéo. Mais classique, tu vois, pour moi c'est encore plus que ça, tu vois, j'ai l'impression, enfin, les gens, Skyrim c'est un moment de leur vie, tu vois, vraiment, je pense que pour une partie de notre génération.
C'est la période où 2020 bascule vers 2021, il y a plein de gens qui disent les jeux de la génération, les jeux de la décennie, enfin, dans le lot, il y a forcément Skyrim, Minecraft, Fortnite, enfin, tu vois, c'est des jeux comme ça qui ont gagné un
statut pop.
Énorme.
Qui dépasse nous, nos Dark Souls, nos trucs, les jeux plus ou moins importants dont on parle, tu vois. Skyrim, c'est autre chose, quoi. C'est dans une autre stratosphère, le jeu. Et je pense que justement, voilà, c'est ce que je disais, que comme il n'y a pas eu d'hérité, il n'y a personne qui est venu remplacer Skyrim en fait.
C'est très risqué parce que du coup, faire un open world comme ça, les jeux en solo, c'est toujours un tout petit peu risqué, tu vois. Il n'y a pas tant de studios, enfin, il y en a de plus en plus, mais je veux dire, ça fait toujours peur comme ça aux investisseurs, donc c'est
surtout,
pas toujours évident.
Pour pondre un truc, c'est
partir avec des idées, avec un télescope, et se dire parce que en fait, ce qui est hallucinant, c'est, et on le voit un petit peu avec Cyberpunk, c'est que plus ton jeu il va être ambitieux, plus il va arriver dans un état un peu cassé à l'arrivée, quoi. Et Cyberpunk ne propose qu'une fraction des possibilités et des fonctions qu'a un jeu comme Skyrim. Là, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de promesses que le fait que ça marche alors que c'est tout cassé, enfin, personne ne prendrait ce pari-là. Tu vois, je veux dire, personne ne se dirait, ben, c'est pas grave, les joueurs, ils vont le finir à notre place. Enfin, je veux dire, tu vois, on rigole, mais il y a que chez Bethesda où ils peuvent se dire ça en se disant,
ça passera.
C'est bon, tu vois, genre, tu vois, ça va le faire. Alors, il y a quand même un jeu qui reprend, parce que je veux le citer, parce qu'il mérite quand même de droit de citer, mais c'est un jeu indé, donc c'est pas du tout les mêmes ambitions, c'est pas non plus les mêmes ampleurs en termes de narration, etc. Ça s'appelle Outward, c'est un petit jeu indé, donc qui est fait par une équipe québécoise qui s'appelle Nine Dots, et qui reprend globalement la même proposition qu'un Morrowind, avec le monde ouvert, on va se balader, jeu pas trop, il n'y a pas de classe de personnage vraiment, on peut un peu faire un peu ce qu'on veut, faire sa petite vie. Ils ont essayé de reprendre ça, mais c'est peut-être un des seuls en fait. C'est peut-être vraiment un des seuls qui s'est placé sur cette idée de créer un open world assez immersif, assez organique, comme on l'a dit, un peu avec ce jeu à la carte là. Comme tu le dis, maintenant c'est très formalisé parce que justement on essaye plus de rentabiliser le temps des joueurs en leur disant bah, vous allez passer tant de temps, vous allez acheter un season pass, vous allez acheter des crédits Elix, vous allez acheter machin ceci. Skyrim c'était démerdez-vous et rendez-vous dans 3000 heures.
Ouais, voilà, c'est ça, vraiment, vous allez pouvoir y passer 5 ans dessus, tu sais, le jeu live ça existait même pas, jeu service, on n'en parlait pas à cette époque-là. Et ouais, c'est vrai que c'est. Encore une fois, justement, parce que plein d'autres jeux ont fait ça et ont cherché à exploiter la rétention, le temps de jeu et tout, Skyrim reste comme, bah voilà, celui-là, moi j'y ai passé 150 heures, je l'ai payé une fois et voilà, j'ai fait plein
je
de trucs dedans.
2,5€, oui, voilà, dans une des 8 millions de soldes Steam où il est apparu.
Exactement, et du coup, bah ça reste. Est-ce que c'est possible, en fait, encore aujourd'hui, de faire un jeu comme ça? Tu vois, même Bethesda, avec Fallout 76 et tout, il y a eu d'autres modèles, hein, il me semble.
Ils ont essayé des systèmes d'abonnement. De toute façon, Bethesda, ils ont toujours essayé, hein, parce qu'ils sont connus, Bethesda, c'est quand même eux qui ont inventé le DLC, hein, la microtransaction, et ils vendaient la fameuse selle de cheval d'Oblivion. C'est la première fois dans l'histoire qu'on pouvait acheter du contenu numérique, alors que paradoxalement, c'est un jeu où il y avait des mods, donc la selle de cheval, il y avait des gens qui la fabriquaient gratuitement en mieux. Ils ont essayé de monétiser le contenu des modeurs à un moment donné. Ils ont essayé de lancer leur propre plateforme. En gros, les modeurs touchaient un pourcentage, etc. Ça a duré quelques jours à peine.
Il n'y avait aucune politique de droit d'auteur, de traçabilité des trucs. C'était n'importe quoi.
Je me souviens de la sortie du truc, ça a été vraiment. Tu sais, ça a fait un pic comme ça, et après, on efface les mémoires.
C'est Men in Black. On oublie. Fallout 76, il y a le système de Fallout, alors je sais plus si c'est premium, enfin il y a un abonnement que tu peux prendre pour avoir accès au serveur, enfin ils essayent des trucs, mais c'est vrai que la formule initiale de Bethesda reste celle que tout le monde connaît, et enfin de Skyrim. Et c'est ça que tu as envie de retrouver. Et je pense qu'ils en sont conscients. Je trouve ça bien, si vous voulez, qu'ils fassent Starfield. Ça leur permet peut-être de faire une pause. Il y en a, ça doit faire. Parce que. On l'a dit, hein, Todd Howard, ça fait bientôt 30 ans qu'il y est, c'est pas le seul, il y a vraiment peu de turnover dans cette boîte-là, il y a beaucoup de gens qui ont 10, 15, bientôt 20 ans de métier chez Bethesda, je pense qu'ils sont contents de faire un jeu dans l'espace plutôt que de refaire de la fantasy, et après, la pression va être folle, parce que le jour où ils commencent à nous montrer du gameplay, tout le monde va les attendre au tournant, parce que depuis, il y a eu 43 000 open world, on l'a dit, il y a eu The Witcher qui est passé par là sur la narration,
The Witcher 3,
il y a eu Breath of the Wild, il y a
un
eu...
Un système de combat, tu vois, en fait, The Witcher 3 pour moi a montré, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, The Witcher 3, quand j'y avais joué, je disais bon, le combat c'est pas ouf, mais quand tu retournes à Skyrim, tu fais quand même, effectivement.
Moi je me replace dans ma peau de testeur GameCult à l'époque. Moi je me suis dit, The Witcher 3, c'est son principal concurrent, c'est qui? C'est Skyrim, c'est Dragon Age Inquisition, des choses comme ça. Et t'es là, en termes de narration, en termes de personnages, en termes de gameplay, tu vois, ça. Pousser le truc beaucoup plus loin. Tout ce que tu perdais en termes de liberté, tu le gagnais dans d'autres aspects. Donc, c'est des histoires de vases communicants. Ça plaît pas. Ce qui est bien, c'est que vous avez les deux facettes. Mais encore aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas de truc.
Disons que ce sera difficile. Enfin, je pense que là, avec un système de combat, tu vois, première personne qui tient, enfin, qui est toujours le même depuis je ne sais pas combien d'épisodes. Enfin, est-ce que ça pourra sortir, allez, même en 2022, 2023, 2024, j'en sais rien. Ça va être compliqué parce que justement, il y a eu d'autres. Il y a quand même d'autres challengers qui sont rentrés dans la.
T'as eu Dark Souls qui a montré aussi qu'en termes d'action RPG, on va pas en revenir là-dessus, mais ça a forcément changé.
C'est vrai que l'action RPG, c'est devenu le genre roi sur cette dernière décennie. Et maintenant, en termes de game feel, il y a quand même plein de références qui font aujourd'hui, et voilà, pour quelqu'un qui a vraiment, qui s'est un peu plus penché sur le jeu cette année, ça pique les doigts quand même, parce que c'est pas ouf à jouer.
Mais c'est un vrai boulet qui se traîne, un vrai challenge, parce que ça fait vraiment partie de l'identité visuelle, d'être à la première personne, de pouvoir faire de la magie, des combats à l'épée, à la hache ou quoi, Et oui, c'est un vrai casse-tête en fait, parce que des combats de mêlée à la première personne.
Réussi.
Alors, ouais, il y a eu quand même, je sais plus, t'as eu quelques jeux, genre, je sais pas, les Mordos ou les trucs comme ça, un peu, c'est des combats d'épée. Alors, c'est à la troisième personne, mais t'as For Honor sinon qui tentait des trucs.
Aussi.
Ouais, voilà, donc il y en a qui tentent des trucs. Par contre, ça peut éventuellement s'opposer à cette vision très grand public, pas trop se casser la tête entre guillemets pour vraiment être plongé dans le jeu. C'est vrai que là, si tu dois bien maîtriser un gameplay de mêlée à la première personne, c'est peut-être compliqué.
C'est compliqué de faire un gameplay de mêlée à la première personne, hein. On se souvient aussi Arkane qui se sont cassés les dents quand même dessus, parce que bon, dans Dissonance c'est pas très bien, enfin c'est très difficile.
Ça,
je sais pas comment c'est,
moi j'aimais bien dans Dark Messiah of Might and Magic qui était le jeu d'avant qui s'avait sorti avec Ubisoft, où justement l'idée c'était de proposer toujours leur maître Nedir. Arkane a un côté très immersif sim, très vous jouez un peu comme vous voulez. Il y avait ce côté gameplay à la première personne, il y avait des comptes, il y avait des parades, mais comme tu le disais, du coup ça rajoute cette surcouche de skill, de talent des joueurs et des joueuses.
Puis c'est pas facile, tu vois, pas évident, quoi. Bouclier à la première personne, c'est il y a un problème de lisibilité, même de scénographie, tu vois, visuellement ça prend pas bien, c'est pas très
lisible. La première personne, je lisais un Fred là sur Twitter il y a quelques jours qui disait que c'était un peu fallacieux de dire que c'était vraiment ultra immersif. C'est une caméra, et donc une caméra, on le sait, ça définit un gameplay, ça définit plein de choses. Et le fait comme ça de nous placer comme une caméra à 1m50 du sol et on doit voir juste nos mains, bah, c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'imaginer un truc qui fonctionne. Je sais pas si vous vous souvenez, Zelda, ils avaient essayé à faire une version avec les Wiimote, etc., à la première personne, ça marchait pas du tout. Ça marchait pas du tout. Ils avaient essayé de faire ça, et ben les combats dans Skyward Sword, c'est très particulier, quoi. Donc,
Non, et puis tu vois, ce truc, cet argument de dire bon, bah c'est plus immersif, justement, quand tu prends des trucs comme The Witcher, quand tu prends un truc, tu dis bah en fait, sur la promesse du monde, ça marche pareil. Enfin, j'ai pas l'impression que je me dis pas je suis plus immergé dans Skyrim qu'ailleurs, tu vois. Je pense que le jeu est peut-être plus immersif, justement, par la liberté qu'il offre, etc., etc. Mais je pense que aujourd'hui aussi, on a l'habitude de voir des open world, tu vois, avec des grandes caméras qui dézooment, qui te donnent vraiment de la visibilité sur des zones. Tu vois, moi, je pense un peu à Death Stranding, dans, tu vois, les dézooms, les reliefs et tout. Ben, c'est vrai qu'à la première personne, je pense que ça marche pas de la même façon.
Je sais pas, il y a un côté, je trouve quand même, première personne, tu vois, le côté coquille vide, je trouve que ça fonctionne quand même pas mal. Tu vois, le fait d'être à la première personne, de pouvoir, justement, c'est toi qui contrôles la caméra, ça va aussi avec ce côté, je trouve, immersion, que tu laisses pas trop de contrôle à la caméra, qui va te montrer des choses que ton perso pourrait pas trop voir, mais ouais, c'est assez difficile.
Bon, de toute façon, le mot voilà, immersion, c'est un truc un peu fourre-tout, c'est toujours un petit peu compliqué, ces notions, mais en tout cas, ce qui reste, c'est que voilà, un gameplay comme ça, c'est compliqué à faire, c'est un vrai casse-tête, comme tu le dis.
Et puis derrière, ils ont toute la dette technique, puisque du coup, ils ont leur problème de bug, etc. Le problème, c'est qu'ils se les trimballent encore dans les Fallout et tout, donc ils doivent quand même remettre à plat leur moteur. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un portefeuille, ils ont papa et maman qui ont plein de sous, avec
vrai.
Bill et Bilout, Bill Gates.
Bill
qui...
et Bilout.
Non, je sais pas, parce que j'étais parti avec papa et maman, j'étais là, Bill, je connais pas le nom de
sa femme.
Phil, voilà, ce sera Phil Spencer et Bill qui vont leur financer le prochain jeu. Et donc ça va peut-être leur permettre de justement rattraper ce retard-là, continuer d'embaucher, mais le problème, c'est qu'on le sait, à partir de là, ils pourront plus faire un jeu à 100 personnes, parce que les attentes en termes de visuel, plus les mêmes. On l'a vu, là, il y a un jeu d'Obsidian qui a été annoncé, qui s'appelle, je sais pas si vous vous souvenez du nom, où on voyait très bien qu'on était quand même dans du Skyrim-like, avec le gameplay, tu sais, où tu fais un sortilège à main.
Oui, je m'en souviens, mais je l'ai plus noté.
Mais on se dit, bon, Obsidian, ils veulent revenir un petit peu vers ce genre de jeu-là.
Qui sont aussi, en plus, chez Microsoft, concurrence interne, les enfants.
On a eu The Outer Worlds, alors c'était plutôt du double A, un D, que vraiment du triple A, mais oui, qui n'est pas vraiment convaincu.
Mais qui a un peu
sauce Fallout. Oui, ça reprenait un peu Fallout New Vegas, l'idée c'était de surfer un peu là-dessus. Et donc, en fait, nous, ce qu'on essaye de dire, parce que là, on part dans plein de directions, c'est l'idée que en fait, Skyrim est devenu un marqueur vraiment de la pop culture. C'est devenu un jeu extrêmement important pour plein de gens, pour un tas de raisons qui sont tout à fait valables. Mais la suite, ça s'annonce peut-être un peu plus compliqué. Et pour Bethesda, je pense qu'ils en ont conscience. Ça va demander vraiment de se réinventer et de confirmer qu'ils sont soit capables de juste faire la même chose en plus joli, ce qui ira très bien à plein de gens. Hein, vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Et moi, le premier, s'ils nous montrent un monde assez joli, comme on a pu voir là dans le teaser, tout de suite j'y vais, mode photo, et je passe 800 heures là-dedans, il n'y a pas de problème. Non, mais je le sais d'avance, tu vois, donc autant l'avouer. Par contre, s'ils veulent montrer qu'ils sont capables d'aller encore plus loin dans la liberté, les scripts, l'IA, les machins, il y a eu tellement de jeux qui sont sortis depuis, ça va être très compliqué de regagner instantanément cette place-là.
Ils n'ont plus la même place, je pense que c'est ça. C'est vraiment, au moment où ça sort Skyrim, ils ont leur boulevard, quoi. Ils sont devant les Champs-Elysées, ils roulent en tank dessus. Mais là, aujourd'hui, les Champs-Elysées sont beaucoup plus occupés par d'autres grands noms du jeu vidéo. Et là, ils sont presque challengers, en fait. C'est ça qui est assez amusant, alors que Skyrim est ce qu'il est.
Et ils vont être dans un dilemme qu'on a déjà pu voir dans d'autres studios, dont on parlait de Zelda, tu vois, c'est un studio qui a dû se poser la question sur son histoire, sur ce qu'ils faisaient et comment ce qu'ils ont essayé de se réinventer. Pareil pour id Software avec Doom, où ils se sont à la fois réinventés, mais dans leurs racines. Et là, ils sont un peu dans la même situation, et il y a un autre parallèle qu'on peut dresser avec eux. On en a déjà parlé, mais t'as beaucoup de seniors à Bethesda dans les studios, dans la conf. Alors, je fais une petite parenthèse, mais moi, un truc qui m'avait pas mal impressionné dans la formule, la fameuse conf, un petit peu sur le design itératif, du lead level designer, où ils disaient ils ont vraiment tout leur process qui est assez bien géré de A à Z, et ils disaient ils prévoyaient même certaines étapes. Ils disent à un moment dans votre production vous allez vouloir casser votre niveau, faire autre chose parce que vous allez le trouver pas terrible et vous allez vouloir le supprimer et faire autre chose. Tombez pas dans ce piège. En fait, c'est juste que vous vous ennuyez et le nouveau niveau que vous allez faire, il va juste être aussi moyen que ce que vous avez fait. C'est juste que vous en étiez plus trop satisfait parce que vous vous ennuyez. À cette étape de la production, vraiment, vous faites un peu chier et faut pas céder à cette impulsion créative de vouloir faire un nouveau truc. Et tu dis, ouais, c'est des gens, ils en sont quand même à un certain stade dans leur carrière de développeur où ils savent quand ils vont s'ennuyer, ils savent dans quel piège il faut pas tomber parce qu'ils sont déjà tombés avant.
Ouais, ils ont toute cette expérience. Et ouais. Voilà, cette expérience de dire, bah, qu'est-ce qui est suffisamment qualitatif aux yeux justement du public, alors que nous, bah, de notre côté, on va se dire, ah, faut améliorer. Il y a cette expérience de dire, bah voilà, on fait quand même un produit fini. C'est une bien belle expression chez Bethesda, mais l'idée de dire, bah voilà, on va quand même s'arrêter à ce moment-là.
On sort un jeu déjà bien. À la date prévue, c'est déjà un vrai challenge.
Mais c'est important de souligner l'importance de l'expérience justement, parce que à chaque jeu que tu vas, que tu vas sortir, que tu vas ship, tu vas avoir eu tellement de problèmes, tu vas avoir tellement rencontré de galères, tu sais que tu vas en rencontrer des nouvelles que tu n'avais même pas imaginées 3 mois plus tôt parce que tu pars sur un nouveau projet, c'est des nouvelles techno, c'est des nouveaux middleware, c'est des nouvelles plateformes. Il y a forcément tout un tas de contraintes techniques et des problématiques qui vont se poser, mais d'avoir des expériences sur, comme tu le disais, cette idée de on avance, c'est pas grave si c'est pas très joli, on le refera plus tard et on va avancer petit à petit, on va lisser au fur et à mesure le jeu, ça leur permet de garder un cap et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à sortir un jeu pareil avec seulement, entre guillemets, 100 personnes.
Et là, du coup, on verra, est-ce que à toute cette histoire avec l'Elder Scrolls, ce sera plutôt un boulet de gens qui n'arrivent pas vraiment à se réinventer ou à être pertinents, ou au contraire, est-ce que ce sera comme un peu du Software ou du Nintendo, où ils vont réussir à puiser dans leur formule et proposer quelque chose de vraiment innovant ou quoi, dont seuls eux ont le secret. Bon,
Eh bien, rendez-vous dans l'épisode de 2026 de Fin du Game sur The Elder Scrolls 6. D'ici là, soutenez-nous sur Patreon, évidemment. Je crois qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode. C'est toujours particulier de s'attaquer comme ça à un gros monument du jeu vidéo qui a été déjà tant discuté. On l'a vu, dès qu'on a ouvert le salon sur le Discord, là, c'est parti, des pavés d'expériences et compagnie. C'est vraiment ces jeux qui génèrent ça. Mais voilà, je pense que c'est sympa de terminer l'année comme ça sur un gros monument, de se dire, bon, voilà, ça y est, Skyrim, c'est fait. C'est de l'autre côté, c'est derrière nous.
C'est un des grands jeux, tu vois, de la décennie qui est en train de se terminer. Donc, c'est cool, tu vois, il y a le côté un peu symbolique comme ça. Et donc, on verra par la suite ce qu'ils vont nous faire. Moi, je suis content, tu vois, vraiment qu'ils fassent une pause dans l'Heroic Fantasy et qu'ils nous fassent un petit break avec Starfield. Un petit break de quelques années. Non, mais ça va leur permettre de... En fait, on va pouvoir prendre le pouls et de se dire à quoi on va pouvoir se projeter vers la suite. Parce que là, du coup, ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas refait de gros nouveaux jeux.
Oui, puis c'est quoi un jeu Bethesda Studio en 2021 plus, voilà, exactement. Très bien, on remercie encore une fois également Sœur d'édition. Je rappelle le livre sur Skyrim, avec les parchemins de bord de ciel. Tamriel, pardon, voilà, j'arrive pas avec ces noms. Vous
Blanche
avez évidemment.
De Blanche,
t'as vérifié, non?
Je sais pas.
Aïe. De Yharnam. Non.
Pour les 6 personnes qui nous écoutent encore à ce moment-là.
Quand même. Les gens,
combien vous êtes
cette émission.
Alors comptez-vous, voilà. Venez sur le Discord et dites-nous combien vous étiez. C'est important.
Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur l'univers de Skyrim, elle est beaucoup plus loin que nous, on a pu le faire dans cette émission. Bah voilà, on vous renvoie sur le livre de Sœur, on vous renvoie aussi sur toutes leurs boutiques. Et puis, on se retrouve bientôt pour l'épisode bonus de fin d'année où on va un petit peu célébrer ces 2 années de Fin du Game, revenir un petit peu sur l'émission, répondre à vos questions, revenir sur cette année 2020 qui s'est écoulée, voir ce qui sera le programme un petit peu de cette émission en 2021, parce que oui, on sera toujours là. Vous savez, chaque année, maintenant, on dit « Ouais, 2020, c'était la pire année, vivement 2021 ». Là, il commence à avoir des nouveaux mèmes qui préviennent que 2021, ça va être chaud. Et il y a moyen que ça soit encore pire, parce qu'on est sur une espèce de grande pente descendante de la vie. Mais voilà, nous, fin du game, ça va.
On
reste toujours là.
Optimiste.
On va essayer de rester optimiste. Je ne vous promets pas que le jeu vidéo, ce sera incroyable en 2021, parce que c'est ce qu'on vous avait promis en 2020. Et
voilà, toutes les promesses n'ont pas été tenues. Mais voilà, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pas dans deux semaines, dans trois semaines ouais. pour le prochain épisode, coup, puisque voilà, il y aura l'épisode bonus.
Il y aura l'épisode bonus peut-être dans une semaine, puisqu'on le reprécise au cas où vous aviez peut-être pas bien compris ou ça a été mal dit, je sais pas, mais le live est déjà passé au moment où vous écoutez cet épisode. Voilà, c'est fini, mais il y aura une diffusion audio.
On verra.
Mais du coup, ce sera diffusé donc a priori une semaine après la sortie
oui,
de ça.
Oui, disons fin décembre.
Et l'épisode d'après qui serait sorti le 1er janvier. Donc pour des raisons évidentes, non. Il sortira le 7. Ouais, c'est le 7 ou le 8.
7 ou 8 janvier. Voilà, on se retrouvera donc pour un gros jeu encore une
fois. Gros jeu encore une fois. Oh là là là.
Ce programme.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Suivez-nous sur Discord. On annonce toujours 4 jeux à l'avance. Ça vous laisse un peu plus de 2 mois ou en temps normal 2 mois pour vous mettre dans le backlog. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont des fiches Excel extrêmement poussées. Ils ont montré ça là ces derniers jours. J'ai halluciné par le niveau d'organisation absolument.
Speedrun fin du game.
Ouais, ouais, c'est
du sub 400 heures là, c'est impressionnant.
Donc voilà, vous allez vous retrouver. On est bientôt 4000 en plus sur le Discord. Donc voilà, encore une fois, un petit milestone qui devrait arriver dans pas longtemps. Venez, l'ambiance est sympa. Voilà. Pour discuter, partager vos expériences.
On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles seront un petit peu particulières. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.
Ciao.
Salut.